Donc ce matin, on voit la troisième partie du SMD. Alors, la troisième partie de ce cours, ça porte sur le SMDSM. Alors le SMDSM, ça veut dire le système mondial de détresse et de sécurité en mer. Mais tout le monde appelle ça le SMDSM. Voilà. Alors, les fonctions du SMDSM. Déjà, donc, je répète, c'est une convention qui a été signée avec tous les membres de l'OMI, donc l'Organisation Maritime Internationale. Et donc, ils se sont mis d'accord sur un certain nombre de si sur un système qui permet d'assurer certaines fonctions. Et donc, il y a 9 fonctions qui doivent être assurées par tout équipement qui est aux normes SMDSM. Donc, la première chose, c'est émettre des alertes de détresse de navires à terre par deux moyens distincts. Ce qui veut dire que pour vos VHF, là, vous allez avoir le mode ASN, donc envoyer un message de manière numérique, et la phonie via le canal 16. Hein, donc vous avez donc deux moyens distincts, même si c'est avec le même appareil. Ouais, analogique numérique. Donc c'est émettre des signaux de détresse navire à terre. Et aussi, au niveau de des stations côtières, c'est recevoir les alertes de détresse terre-navire. Donc à faire, c'est mieux. Ça sert à rien qu'un navire émette un truc sans que personne n'entende. Troisième chose, émettre et recevoir des alertes de détresse de navire à navire. Et donc c'est pour ça qu'on utilise à chaque fois systématiquement la même voie. Hein, c'est ce qu'on avait vu quand si on utilise deux voies différentes à l'émission et à la réception, on ne peut faire que des communications bilatérales. Alors que si on émet sur la même voie, finalement, on peut être autant de monde à la fois à l'écoute, et il n'y en a qu'un seul qui émet, mais il y en a un qui émet et l'ensemble qui écoute sur la même voie. Quatrièmement, émettre et recevoir des communications ayant trait à la coordination des opérations de recherche et de sauvetage. Alors, recherche et sauvetage, en anglais, c'est SAR and Rescue, donc c'est les systèmes SAR. Hein, donc, c'est recherche et sauvetage. Donc, ça, c'est géré par les CROSS. Hein. Émettre et recevoir des communications sur site. Là, ça, c'est pour à l'intérieur du même bateau communiquer. Alors c'est peut-être pas trop en plaisance parce que les bateaux sont petits, mais sur des gros bateaux, sur le même bateau, on peut communiquer via radio de l'avant à l'arrière, hein, de la poupe à la proue sur un bateau. Peut gérer ça. Mais oui, le système permet de faire ça. Ouais. Ouais, bon, enfin, en même temps, si on utilise un appareil radio, ça ne peut que fonctionner, quoi. Enfin, bon. C'est pas cet article-là qui est le plus intéressant, hein, je vous rassure. Ce qui était important, c'était surtout le début. Et, alors ça, par contre, c'est intéressant, émettre et recevoir des signaux destinés au repérage. Donc ça, en particulier, c'est pour les bouées. On peut avoir un système où les bouées, en fait, sont repérées. Donc elles émettent des radiobalises, quoi. Mais il n'y a pas que, hein, aussi repérage des bateaux, on va voir tout à l'heure. On va voir, c'est le système, c'est un système qui s'appelle l'AIS, qui permet de voir où sont les bateaux et où sont les bouées, etc., etc. Et ça marche vachement bien, vous allez sur Internet, vous voyez tous les bateaux. C'est bluffant, hein. Ah ouais. Oui, il y a la même chose puisque c'est le même système. C'est le même système qui a été dupliqué pour les bateaux et les avions. Donc on a, alors, pour les avions, je vous rassure, c'est les positions sont données avec une demi-heure de retard. Pour éviter pour éviter les problèmes. On sait à peu près où ils sont. Non, mais sinon, ça serait vachement trop simple. Là, ta position GPS, degrés, minutes, secondes, c'est assez con, hein? Émettre et recevoir des renseignements sur la sécurité en mer. Bon, ben voilà, c'est un petit peu ce qu'on va voir quand on va voir les signaux NAVTEX en particulier. Émettre et recevoir des communications d'ordre général, bah, c'est le téléphone finalement. Et émettre et recevoir des communications de passerelle à passerelle, c'est un petit peu la même chose que sur site. Voilà. Donc c'est quand on a deux bateaux qui sont proches l'un de l'autre et qu'ils veulent communiquer entre eux. Voilà. Donc pour que ces neuf fonctions puissent être assurées, le SMDSM fait appel à différentes techniques ou sous-systèmes, donc deux sous-systèmes radio-téléphonie ASN, voilà, ce sont deux sous-systèmes, et chaque sous-système ayant évidemment ses limites. Donc en radio-téléphonie, je vous ai mis en gras là ce qui nous intéresse nous, mais sachant que le SMDSM, enfin tout ce qui est radio-téléphonie, on avait vu qu'il n'y avait pas que le 156 mégas, il n'y avait pas que la VHF. On a aussi des fréquences sur les petits, les donc medium frequency, les petites ondes, et aussi en HF. Donc on a pas mal de possibilités. Et puis à l'intérieur, on a deux différentes manières de communiquer. On a la radiotéléphonie, ce qu'on a vu la semaine dernière. On a la télégraphie par impression à impression directe. Alors ça s'appelait le RTTY, ce qui veut dire radio-télétype. Et ça existe depuis. Bah oui. C'est le Telex, ah oui, c'est le Telex. Enfin, le Telex étant un. C'est une norme en fait, Telex. Hein, c'est la norme de téléphonie. Mais sinon, après, appliqué au monde de la radio, puisqu'on n'a pas de fil, c'est du radio-télétype. Mais ça marche de la même manière. Les codages, tout au moins, les lettres sont codées de la même manière. Hein, donc c'est codé en baudot. Donc pour cette télégraphie à impression directe, on a en particulier tout le trafic NAVTEX, donc les renseignements sur la sécurité en mer, tout le trafic NAVTEX dont on va parler à la fin, passe en. C'est du radio-télétype. L'ASN, donc on en a en VHF, mais on en a aussi sur cinq autres fréquences en petites ondes et en ondes courtes. Donc MF, Medium Frequency, High Frequency. Hein, enfin, pour le CRR, vous avez droit qu'à la VHF, mais c'est dupliqué sur quatre autres fréquences. C'est le même système. Donc l'ASN permet l'alerte de détresse et leurs accusés de réception, les relais de détresse et leurs accusés de réception, les appels pour établir les communications d'urgence et de sécurité, et les appels pour établir des communications de routine commerciale, demande de renseignement, donc c'est plus de la communication d'ordre général. On a le service par satellite, qui fait partie du SMDSM, avec deux systèmes de satellites. Un système qui s'appelle, enfin une constellation de satellites qui s'appelle les Inmarsat. Ceux-là sont des satellites qui sont géostationnaires, c'est-à-dire ils sont à 36 000 km au-dessus de l'équateur, et ils tournent à la vitesse de la Terre. Donc on a l'impression finalement, voilà, vitesse relative de la Terre. Et donc on a l'impression qu'ils ne bougent pas. En fait, c'est nous qui bougeons et eux aussi. Mais on bouge en même temps. Et il n'y a qu'un seul endroit, c'est 36 000 km au-dessus de l'équateur. Il n'y a que là que ça marche, quelle que soit la masse du satellite. Voilà. Et il commence à y avoir du monde, parce qu'évidemment, tout le monde s'y met là. Et donc, il y a des trains de satellites qui passent. Bah, il y a de la place, il y en a de moins en moins. Oui, mais il faut à peu près 10 km entre chaque satellite. Donc, après, au bout d'un moment, bah. Il faut 10 km à peu près. Parce que sinon, ben, le problème, c'est que c'est pour les positionner, hein. Eh ben oui. Ben, c'est pour, enfin, enfin, la fusée, elle les emmène déjà sur une préorbite. Ah ben non, mais ils passent pas au-dessus ils passent pas par l'équateur. T'es pas obligé de passer par l'équateur. Ben, ils décollent à peu près, mais ils passent loin, hein. Et puis y a beaucoup de satellites qui ne montent pas jusqu'à 36 000 km. Parce qu'après 36 000 km, ils vont moins vite que la Terre. Donc en fait, après, ils sont éjectés. Pour tourner plus vite, il faut être plus bas. Et donc là, c'est toutes les deux constellations, la Kospas et la Sarsat. Kospas, c'était russe, enfin, c'est des satellites russes. Sarsat, c'est des satellites américains. Et donc, ce sont deux systèmes qui ont fusionné en 1988. Ils fonctionnaient à peu près de la même manière. Voilà, on vexe personne parce qu'en fait, ils ont les deux mêmes fonctions. Parce qu'on ne sait pas lequel va répondre. Et donc, c'est un système qui a été fusionné en 1988. En fait, c'était deux systèmes qui étaient quasiment équivalents l'un de l'autre, sauf qu'il y en a un qui était russe, l'autre américain. Et donc, c'est un système qui est commun aux navires, aux avions et aux individus. Donc, c'est toutes les balises de détresse qu'on peut avoir individuelles. Donc, alors, ce sont des satellites à orbite polaire, c'est-à-dire qu'en fait, les Inmarsat, eux, c'est orbite géostationnaire, donc au-dessus de l'équateur. Les polaires, en fait, ils tournent avec une. Ils ont un orbite oblique en fait. Donc ils tournent autour de la Terre. Hein, il y en a un qui tourne comme ça, l'autre qui tourne autour comme ça. Mais ils tournent à basse altitude et en tout, alors en fait, ce sont Kospas et Sarsat, ce sont des satellites météo à la base. Donc c'est les images météo que vous recevez sur sur votre journal télévisé, là. Les images météo, ça vient de ces deux constellations de satellites. Il y en a sept en tout. Et ces satellites météo sont en plus équipés d'un système de relais finalement des balises. Donc en fait, ils ont un récepteur et ce récepteur, ben, il renvoie tout ce qu'il entend sur Terre. Hein, donc c'est un relais quoi. Et donc ces balises Argos, elles sont sur 406 mégas. Et auparavant, jusqu'en 2009, elles étaient aussi sur 121,5 et 243 mégas. 406,028 précisément. Et donc, voilà. Les quatre étapes de transmission d'un appel de détresse au CROSS via ce système-là, parce que, en fait, balises qui sont. Du SMDSM, en fait, on a le code MMSI dedans. Donc, la station sur Terre va recevoir du satellite une information, elle va avoir un code MMSI, elle va dire, ah, ça, c'est du maritime, et donc je l'envoie sur le système maritime. Si elle voit que c'est un code aviation, qui a aussi une autre manière de coder, ça va envoyer sur le RCC qui va en France c'est 5 Mars la pile. Et là, il n'y en a plus qu'un. Pour l'aéronautique. Et puis il y a sûrement aussi pour les autres systèmes qui sont ni maritimes, enfin pour les balises personnelles, là, pas spécialement ni maritime ni aéro. Le type en montagne, typiquement le type en montagne, qui a aussi une sorte de code pour savoir bah, qui c'est celui-là, quoi. Bah oui, il faut avoir, oui, c'est pas. Faut... Alors, en fait, c'est vendu avec le système, mais il y a une sorte d'abonnement, quoi. Parce qu'évidemment, quand le système, quand le CROSS reçoit un appel de détresse, bah, il faut que, enfin, il y a une procédure. Donc, on déclenche la balise de détresse. T'avais un petit truc là, non? C'est ça? C'est ça le truc, le déclenchement de la balise de détresse? Voilà. Déclenchement de la balise de détresse, numéro 1. Numéro 2, ça renvoie au satellite. C'est dans votre bouquin là. Ils l'ont mis dans le manuel. Donc, le déclenchement de la balise. 2, donc ça renvoie au satellite. Le satellite, il renvoie la station de réception au sol. Alors en tout, il doit en avoir 7 ou 8 sur tout le globe terrestre, des stations de réception, pour que ça soit. Et puis après, c'est traité selon l'origine de la balise, bah, ça renvoie à sur place ou à un centre de coordination des secours. Voilà donc la manière dont ça fonctionne. Pour le bateau, alors pour le bateau. Voilà. Et après les autres, je ne sais pas comment ça marche. Ah d'accord, ok. Bon, voilà. Donc, lié à ce SMDSM, on a le code MMSI qui permet de définir quel est le bateau qui a lancé l'appel finalement. Donc, le code MMSI, Maritime Mobile Service Identity, est codé systématiquement sur 9 chiffres et permet donc d'identifier un navire et sa nationalité. Donc, la définition donc du MMSI, ça fait partie du SMDSM. Et ce code, il doit être programmé dans tout ce qui est émetteur avec. Dès qu'un émetteur peut envoyer ce code-là, donc non seulement votre VHF, mais aussi une balise, le code est programmé une fois pour toutes. Et généralement, il vaut mieux le faire faire par un professionnel. Comme ça, il n'y a pas de. Parce que si vous faites une inversion de chiffres, par exemple, bah, c'est. On a l'impression que vous êtes un autre bateau, quoi. Bah ouais, alors ça, oui, mais faut qu'il passe par un professionnel, encore une fois. Faut passer par un professionnel pour la reprogrammation, parce que je pense pas que ça soit aussi facile que ça. Il doit y avoir une manipulation. Là, je connais pas trop, mais je sens bien le truc. Bon, donc le code MSI contient systématiquement le MID, c'est le Maritime Identification Digit, qui est un code à trois chiffres et qui définit la nationalité. Donc on en a déjà parlé, les codes MID sont attribués par l'UIT, comme les préfixes F pour la France. Donc on a nous les codes 227, 228, 229 pour la France métropolitaine. Je vous ai rajouté à titre de rigolade les MID des DOM-TOM, donc 329 la Guadeloupe. Vous remarquerez que 2 correspond à l'Europe, 3 c'est les Amériques, hein, 329 Guadeloupe, 347 Martinique, 361 Saint-Pierre-et-Miquelon, 5 je suppose que c'est l'Océanie, donc 501 Terre-Adélie, voilà, ils ne savaient pas trop où mettre ça ce truc-là, voilà. Voilà, 540 la Nouvelle-Calédonie, 546 Polynésie, etc. Voilà. Voilà, et 745, alors ça, ça doit être, je suppose, l'Amérique du Sud. Ils doivent avoir différencié l'Amérique du Sud de l'Amérique du Nord. Je suppose. Enfin, voilà. Donc le MID des pays européens commence par un 2, et ce qui est important, c'est que les MID ne commencent jamais par 0, 1 ou 9. Pourquoi? Parce que justement, dès qu'il y a un chiffre qui commence par 0, 1 ou 9, eh ben c'est pas un navire. Voilà comment. Alors, dans le MMSI, il y a le MID. Pour les navires, on commence toujours par le MID pour savoir la nationalité du navire. Lorsque c'est pas un navire, ça commence par 0, 1 ou 9. Alors, une balise, attends, pas ça, hein. Ça, c'est une balise, ça, c'est rattaché à un bateau. Alors, une balise, une bouée. Alors, oui, bah, oui, mais il est pas, il fait pas partie du SMDSM. Donc, il doit avoir un autre code. Il n'a pas un MMSI, lui. Surtout les trucs de bateau. Mais avion, c'est un autre code. Il a un identifiant, mais qui n'est pas, qui, voilà, il va, ça, à mon avis, c'est un truc qui est un peu équivalent, mais il n'est pas codé comme les bateaux, heureusement. Ils ont encore autre chose, c'est un Atis, eux, qu'ils ont, ouais, ils ont un Atis. Ouais. En tout cas, pour les bateaux, donc c'est MID avec, comme on a déjà trois chiffres pour le code pays, après il reste plus que six chiffres pour l'identifiant du bateau. Les groupes de navires, alors ça visiblement, j'ai cherché sur Internet, c'est quasiment pas utilisé. On commence par un zéro, le code MID, et donc il n'y a plus que cinq chiffres. Alors je ne sais pas quoi ça sert. Je sais pas. Voilà, bon. Embarcation rattachée à un navire principal, donc on a 98 MID et un chiffre. Voilà. Alors ça, c'est un truc aussi, j'ai pas tellement vu. Ben non, parce que normalement, l'annexe, elle a le même numéro. Ben, j'ai pas vu de question. Mais c'est écrit dans le coup. Mais c'est écrit dans le bouquin. C'est en rouge. C'est écrit dans le bouquin. C'est ça qui est chiant. Ben, en gras, c'est que j'ai vu des questions dessus. En gras, c'est que j'ai vu des questions dessus. Là, en l'occurrence, j'ai pas vu de questions. En revanche, pardon? Les codes. Ah bah le code, le MID. Voilà, et t'as des questions dessus. Ben, j'en ai pas vu de questions. Mais ils peuvent te demander puisque c'est dans le bouquin. J'ai pas vu de questions à choix multiples là-dessus. Ben, il pourrait y avoir. Il pourrait y en avoir. Ah bah oui, c'est-à-dire que leur stock de questions, ils le modifient au fur et à mesure, et on risque de... Ouais. Ouais, je vois pas l'intérêt. Hein. Ouais, bah oui. Ben, c'est tellement numéro un que tout le monde le connaît, donc il pose plus de questions dessus. Ouais. Donc, ce qui est important, c'est le navire, MID, enfin le code MID et les six chiffres, ça c'est important. Et après la station côtière. Toutes les stations côtières commencent systématiquement par un double zéro. Double zéro, le code pays. Et 1, 2, 3, enfin 1, 2, 3, 4, ou ce que vous voulez derrière. Il y a toujours 9 caractères. Alors après. Ça c'est. Donc ça, les stations côtières, ça commence par 0,0. Et toutes les aides à la navigation, donc les phares, les bouées, tout ce que vous voulez, ça commence par 99. Et c'est pour ça que les codes MID ne peuvent pas commencer par 0. 1 ou 9. Parce que sinon, ça peut être confusion. Et puis enfin, les aéronefs, donc les avions qui participent aux opérations de sauvetage, ceux-là, ils ont un code maritime, 111. C'est quand même, c'est l'exception, mais ils doivent avoir deux codes. Mais ils doivent avoir deux codes, ils ont aussi le code aéronef. Bon, allez. Alors, les équipements VHF ASN fixe et portable. Donc l'émetteur récepteur VHF ASN est l'assemblage d'un appareil VHF classique et d'un sous-ensemble constitué d'un codeur décodeur d'appel sélectif, donc ça c'est ma numérisation finalement, et d'un récepteur de veille de la voie 70. Donc tout ça, on se dit, c'est des sous-ensembles, mais qui finalement sont dans le même, dans la même carcasse, quoi. Tout est ensemble, donc on a à la fois un appareil VHF classique et un récepteur de veille de la voie 70. Donc on a les deux qui sont inclus dans le même boîtier. Et en plus, tout un système de codage-décodage avec affichage des messages. Donc c'est quand même assez, assez complexe. Auparavant, c'était des appareils qui étaient séparés. Mais maintenant, on met tout ensemble. C'est tellement plus simple. Et donc, la particularité des messages ASN, c'est que quand l'appareil reçoit un message sur la voie 70, il y a une alarme sonore, donc ça klaxonne. Alors je ne sais pas comment ça klaxonne, je ne sais pas si c'est fort, quel bruit ça a, j'ai jamais entendu. Mais en tout cas, ça klaxonne pour surtout vous prévenir qu'il y a un message qu'il faut lire. Parce que sinon, quand vous êtes sur la voie 16, vous entendez quelqu'un qui lance appel, ça c'est facile. Par contre, un message numérique, vous êtes infoutu de savoir, le décoder à l'oreille. Donc c'est le système qui va vous dire, attention, j'ai reçu un message, et il vous l'affiche. Ouais, il klaxonne. Donc la première chose, vous éteignez le klaxon, parce que ça va peut-être vous casser les oreilles. Et deuxième chose, vous lisez le message. Ah oui, j'aurais dû reprendre les écrans de l'appareil de la semaine dernière, mais sur son écran, en fait, on a, quand il reçoit le message, il y a tout indiqué. J'avais, sur la notice de l'appareil que j'avais récupéré, là, il montrait un type d'affichage, mais il met tout. C'est un grand écran LCD, donc on voit parfaitement ce qui se passe. Hein. Ouais, sur un talkie-walkie, c'est pareil, t'as un gros écran rétro-éclairé la plupart du temps, t'as toutes les informations qui apparaissent dessus. C'est un afficheur. Alors, les différents types d'équipements. Donc la VHF ASN se fixe. Alors, la VHF ASN fixe, donc c'est le fameux appareil qui est fixé dans la cabine, que l'on appelle portable et qui est finalement pas tellement portable. Se distingue d'un modèle non ASL classique par, alors, normalement sur une VHF, il y a deux connecteurs d'antenne. J'ai bien dit normalement. Mais ça, c'est pour le matériel haut de gamme. Donc c'est ce qu'on a. Alors, puisque les matériels, ils sont classés en plusieurs classes. La classe A, c'est le professionnel, et la classe A professionnelle, en fait, eux, ils ont droit à deux connecteurs d'antenne. Un pour la voie 70, réservé à la voie 70 ASN, et un pour la téléphonie. Donc on a bien deux antennes. Pour les autres, en fait, c'est la même antenne, et ça va faire un peu une sorte de fonction dual watch. C'est-à-dire que ça passe en réception régulièrement. Il y a systématiquement sur les appareils une commande d'envoi d'appel de détresse. C'est le bouton distress, le bouton rouge, qui est marqué soit distress, soit détresse, mais la plupart du temps distress. Et il y a une sorte de petit capot dessus pour éviter de le déclencher de manière intempestive. Donc il faut, pour envoyer le message de détresse, il faut soulever le capot et appuyer sur détresse pendant 5 secondes. Donc il faut le faire exprès, faire une fausse manip, quoi. Il y a un clavier spécifique qui permet donc d'accéder à différentes fonctions et menus de l'appareil. Donc on va voir les différentes fonctions qui sont obligatoires sur les appareils dits SMDSM. Chaque menu est décrit avec une abréviation anglaise, même le matériel soi-disant français. Tout il est écrit en anglais. C'est con comme truc, mais... Voilà. Ouais, non, mais tout au moins c'est écrit systématiquement en anglais, peut-être entre parenthèses une traduction française, mais en tout cas, la base c'est l'anglais. Non, mais il pourrait penser à un modèle français en adaptant le menu. Pourquoi pas, hein. Ça risque d'être pire parce que si vous commencez à vous traduire des mots français avec Google Traduction, on est mal barré. Alors, les menus permettant d'effectuer différents types d'opérations comme la configuration de la VHF ASN, donc paramétrage d'écran, la saisie des codes MSI, d'appeler de façon sélective ou individuelle une station de Vadir, une station côtière, et évidemment une station en connaissant son code MSI, ou afficher le journal de bord. Donc tout ça, c'est des dans le menu, ça permet de d'afficher tout ça, qui sont des fonctions qui sont obligatoires lorsque le matériel est homologué SMDSM. C'est en fait l'espèce de barre de navigation, là, c'est que c'est un système qui est reconnu comme SMDSM. Les différentes classes de matériel, donc la barre de navigation, elle est là. Donc les différentes classes de matériel, on a les matériels de classe A, qui sont destinés aux navires astreints, puisque ceux-là, ils doivent veiller à la fois la voie 70 en permanence, la voie 16, et puis, je suppose aussi, les autres voies de détresse en HF. Les gros bateaux, ils sont obligés de veiller toutes ces voies-là. Donc, la classe A permet l'alerte, l'accusé de réception et les relais de détresse. L'alerte, l'accusé de réception de communication normale ou générale, et l'alerte des services semi-automatiques et automatiques de correspondance publique. Ça, c'est toute la téléphonie, ça. Donc, on a une partie de téléphonie qui peut, appel sur le réseau téléphonique commuté, le téléphone classique terrestre. Donc, le SMDSM le permet. Et puis, et donc des communications automatiques et indépendantes sur la voie 70. Et c'est pour ça qu'ils sont équipés d'une antenne VHF spécifique pour la voie 70 et qu'il y a deux antennes. Donc le matériel de classe A nécessite deux antennes VHF. C'est la conclusion. Les matériels de classe B, c'est à peu près les mêmes, sauf que dans ce cas-là, il n'y a qu'un seul connecteur VHF. C'est-à-dire que là, maintenant, on va commencer à avoir un système dégradé qui est toujours pour les navires astreints. Alors, rien ne vous empêche, vous, de vous acheter ce genre de matériel, sauf que ça vous coûte une blinde. Et puis, c'est un peu volumineux. C'est fait pour les professionnels. Donc, il n'y a pas grand intérêt d'avoir ça sur son bateau. Donc, le classe B, c'est un tout petit peu dégradé. C'est-à-dire que là, on n'a qu'un seul connecteur VHF. Et en fait, la voie 70, la veille de la voie 70, elle s'effectue avec un système un peu comme le Dual Watch, comme on a vu lorsqu'on veut à la fois veiller la voie 16 et une autre voie. Donc en fait, sur un appareil ASN normal, et que vous êtes à l'écoute de la voie 6 par exemple, vous écoutez et que vous avez mis en route le système du Hall Watch, vous écoutez, enfin, le système écoute à la fois la voix 70, la voix 16 et le 6. Celle que vous voulez causer dans le poste. Voilà. Voilà, donc là c'est un trio watch, voilà. Voilà, si on veut. Ouais. Exactement. Et donc ça écoute alors un très court temps, quelques millisecondes, toutes les 3-4 secondes, quoi. Pour voir qu'il n'y ait pas, qu'il y ait personne. Les. Ouais. Alors, la classe C, j'ai cherché du matériel classé, ça n'existe pas. Ça a dû exister, ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Ouais, mais après, il doit y avoir une C. Ah, bah, je sais pas. En tout cas, maintenant, c'est la classe D. Et la classe D, c'est réservée. Aux navires non astreints. Donc typiquement les navires de plaisance pour lesquels vous êtes en train de bûcher. Et là, dans les matériels de classe D, on n'a pas de possibilité d'accéder au système, au service automatique, donc la correspondance publique. Voilà. Donc vous n'avez pas le système ASN ne permet pas de se connecter au réseau commuté. Ouais. Bah, ça n'existe plus en France. Ça n'existe plus en France, mais ça existe ailleurs. Hein. Ah bah, avec la SN, dans certains pays, tu peux demander la communication, mais après tu repasses évidemment sur une voie de téléphonie. Là. Et de plus, on ne peut pas accuser réception d'une alarme de détresse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas. Mais on peut répondre par phonie. Ah bah oui, on peut répondre par phonie. Donc ce matériel est destiné aux navires de plaisance et aux navires non astreints. Des commandes complémentaires peuvent être intégrées. Et en fonction des constructeurs, certaines fonctions additionnelles peuvent être proposées. Alors, la fonction ATIS, ça c'est pour les navires fluviaux. Donc on peut avoir sur la VHF, en plus une fonction ATIS, si on veut aller sur les fleuves, pourquoi pas. Et donc là, il y a... Donc là, c'est, alors, par rapport à l'ASN, en fait, l'ATIS, c'est à chaque fin de communication, donc quand vous relâchez le micro, c'est là que ça envoie votre code ATIS pour en fait vous identifier. Voilà. Voilà comment fonctionne le système. Et ça permet comme ça de savoir qui a transmis la pédale. Ouais, quand on lâche la pédale. C'est la fin de transmission, exactement. Ouais. Sur celui qui reçoit. Celui qui reçoit, il y a écrit le code ATIS de la personne qui a émis. Oui. Bon, on va le voir. Parce que là, dans le cours, enfin dans le manuel, en fait, on voit comment ça se passe pour un système de classe A. Donc on voit toutes les possibilités. Sauf que vous n'avez pas droit à toutes les possibilités avec votre matériel. Mais vous pourriez très bien, avec votre CRR, utiliser du matériel de classe A en VHF. Hein. Mais vous n'en avez pas l'utilité. Ouais. Pas spécialement. Ça peut être du D aussi. Le B, c'est du matériel plutôt professionnel. Donc déjà, en termes de volume, ils sont un peu plus gros, hein. Ouais. Ouais. Oui. Ah, c'est du D, ça. Ah oui. C'est un classique, hein. Quelquefois, on trouve aussi des mini-récepteurs AIS. On verra ce que c'est que ces mini-récepteurs AIS. En fait, quand on a un mini-récepteur AIS, il faut avoir un grand écran. C'est presque une tablette, quoi, qu'il faudrait avoir. Ah bah oui. Oui, bah bien sûr, oui, il y en a plein. Ça existe, ça, c'est vachement pratique. Hein. Voilà, il regarde plus là. Il regarde plus là. Les bracelets homme à la mer. Donc ça, c'est quand on a plutôt les pockets, je suppose. Voilà. Les combinés des portées sans fil. On peut avoir une sorte de le micro finalement sans fil. Hein, puisque normalement, enfin, le matériel que je vous avais présenté, on voyait bien, il y avait un cordon spiralé là. Bah, évidemment, vous allez à 1 mètre, quoi, 2 mètres au maximum, et puis après, vous êtes coincé. Alors que. Parce que là,
Parce que le sans fil pour sa mère, c'est comme un clavier sans fil. Mais si on est sans fil pour sa mère, il faut avoir de quoi brancher des câbles. C'est sûr.
un câble, ça marche toujours. Tout au moins, quand ça marche pas, on comprend.
Ça marche pas, on double la prise, on prend un fer à souder. Ah oui, le fil est débranché. On peut faire avec du wifi. Sur ton bateau, t'es mal. Sur un chalutier, on peut s'en sortir. Sur un paquebot aussi, sur un voilier.
Enfin voilà, donc le combiné des portées sans fil, vaut mieux avoir le fil qui est pas loin quand même, au cas où. On maîtrise mal. Matériel glace, toujours sur le matériel classe D, CVHF fonctionne généralement avec une connexion à une antenne GPS qui permet de définir la position du navire sans s'emmerder à. Parce que quand on va voir, quand on lance un appel de détresse. À un moment, il faut rentrer sa position. Alors, plutôt que d'avoir à tapoter la position et de se planter, évidemment, quand on tape la position, le mieux, c'est d'avoir un GPS intégré qui envoie directement sa petite trame qui s'appelle des trames NMEA. Donc, c'est encore c'est une norme. Toutes les normes, voilà. Et on se. Ouais, Kegel, ouais. Mais souvent, la plupart du temps, maintenant, elle est intégrée. C'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur, il y a une puce GPS. Donc, alors, il y a une antenne GPS à connecter dessus, évidemment. Ouais. Mais c'est une toute petite puce. Le truc, il sait où il est. Donc, c'est pas la peine de. Alors, bon, évidemment, c'est la puce brute de décoffrage. Après, il faut faire le montage autour. Mais quand vous achetez ça dans le grand public, voilà, ça, avec le boîtier autour, c'est 50 euros. Allez. Parce que, en plus, le commerçant, faut qu'il fasse sa petite marge. Mais sinon, si vous bricolez un peu, ça coûte rien, quoi. Donc les modèles, les différents modèles ASN sur le marché possèdent les mêmes fonctionnalités opérationnelles. GPS. C'est la mort.
Brancher un GPS sur le bus.
Déjà, recopier le GPS que vous avez à côté, enfin bon, c'est... Ouais. Ah ouais, non, mais il fait le coup. alors, évidemment, c'est un truc tout con, ça, mais comme tous les matériels, il n'y en a aucun qui est pareil, il y a intérêt quand même, avant de prendre la mer, et en particulier avant de signer le signal d'alarme, le signal de détresse, de vérifier comment fonctionne votre appareil. De lire un minimum la notice d'utilisation. Ça a l'air bête comme ça, mais enfin bon... Voilà. Non. Tu veux faire déclencher les clés, c'est ça? Alors, il y a aussi des VHF qui disposent d'un GPS indécré et d'une lampe stroboscopique. En fait, ça vous sert surtout à envoyer des signaux optiques la nuit. Donc, sur les talkie-walkie, vous pouvez avoir cette fameuse lampe stroboscopique en plus pour envoyer des signaux. Voilà. Donc, et je l'ai souligné parce que ça faisait partie, ça, des questions à la noix. Alors ça, c'est un panneau d'un... Alors ça, c'est un matériel de classe A, là. Donc ça, c'est du... c'est un panneau que j'ai réussi. Donc en fait, là, alors, l'écran, il est pas fun. L'écran, il est pas fun, mais maintenant, les écrans, ils prennent quasiment la totalité, là, de... Et le clavier, il est tout petit, hein. Alors, la classe F, alors ça, c'était un matériel de classe A, et la matériel de classe F ne correspond pas au SMDSM. Ça, c'est pas un matériel de classe F, c'est un matériel de classe A, mais j'ai trouvé en complément que la classe F, en fait, la classe F, il ne peut que lancer des appels de détresse, de sécurité et d'urgence, et recevoir uniquement ses propres accusés de réception. C'est tout ce qu'il sait faire. Donc on peut pas dire que, en fait, par rapport aux 9 fonctions du SMDSM qu'on avait vu au début, en fait, il peut pas toutes les faire. Donc il n'est pas SMDSM. Mais il peut lancer un appel de détresse. Voilà. C'est déjà pas mal. Donc, mais c'est surtout si vous voulez vous faire refourguer du matériel, voilà, faites attention quand même. Matériel d'occasion. Voilà. On revient un petit peu de technique, et on va parler de la protection des fréquences de détresse. Et on va parler en particulier ce que l'on appelle, alors c'est un truc juridique, enfin tout au moins dans le RR, dans le Radio Regulations, on parle toujours pas d'interférence, mais on va parler des brouillages préjudiciables. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire tout ce qui peut embêter finalement la réception de signaux. Donc ce sont les brouillages préjudiciables sans savoir d'où ça peut provenir. Alors comment les éviter? Déjà, éviter toutes les émissions de fausses alertes de détresse, c'est-à-dire ne pas appuyer sur la touche détresse de votre matériel intempestivement, sinon ça pose problème. Et le matériel utilisé doit être installé de manière à ce qu'il ne soit pas possible de déclencher une alerte de détresse accidentellement. Donc en fait, il faut se débrouiller pour que ce soit fait intelligemment. Et voilà. Et donc, tous ces matériels-là, il y a toute une procédure pour lancer finalement une alerte de détresse. Il y a toute une séquence de touches ou de manipulations à faire qui permettent qu'on soit sûr que si on, enfin, que l'alerte de détresse, c'est une vraie alerte et non pas une fausse manipulation. Des instructions claires et précises sur l'utilisation du matériel doivent être fournies par le fabricant. Alors ça, c'est pas toujours le cas malheureusement, parce que quelquefois on a des traductions de matériel qui sont pas évidentes. Les utilisateurs doivent être familiarisés avec le fonctionnement des appareils, avoir une parfaite connaissance du SMDSM, mais ça vous allez l'avoir, vous serez parfaitement rodé. Posséder tous les certificats requis pour faire fonctionner les matériels et savoir prendre des mesures afin d'annuler une fausse alerte. Je rappelle que des poursuites sont prévues à l'encontre des personnes responsables intentionnellement ou par négligence de l'émission de fausses alertes de détresse. Ça, c'est dans le code des postes et communications électroniques. Ah bah alors voilà, donc on peut faire des tests aussi. Mais les tests, il faut faire attention. Enfin, généralement, c'est un professionnel qui le fait, parce que ça se fait ce qu'on appelle sur une charge fictive. Enfin non, une charge non rayonnante, pardon. Voilà. En fait, c'est émettre, mais pas sur une antenne, quoi. Sur une charge qui fait que ça n'émet pas. On regarde que le système se met bien en route, qu'il envoie bien la puissance, mais c'est pas une antenne, donc ça n'émet pas. Ouais. Alors ça, oui. Ouais. Ouais. Ben, ouais. Voilà, et qui peut, pour essayer de détecter où étaient les gens qui faisaient ça. Ben oui, ouais, ouais. Ah oui, oui. Oui, parce que là, on dépasse un petit peu de notre problématique, mais vous avez bien vu que dans les fréquences, dans les voies, il y a à peu près 3 mégas de vide au milieu. Il est bien évident que ça tente des tas de gens en se disant « Il n'y a personne à cet endroit-là, on va s'y mettre. » Vautrer. La VHF passe plus.
Donc ils ont du matériel, des cabinets, 6-6. Mais ça ne pose pas tous les jours. Ça sert uniquement quand ils sont cassés la gueule, quoi. Donc il y en a pour dire version de la violence. En France, ça coûte assez cher quand on fait.
Mais voilà, il y a des tas de. Ah bah avec un gonio. C'est un récepteur qui te détermine la position de la direction de l'émission. Donc après ils mettent 3 gonios et par triangulation. Non gonio c'est l'angle. Voilà. Mais il est trop jeune. En France, ouais, il y en a.
Sortir la voiture, en général, ça sera pas bon.
Et la voiture, elle va vite à trouver, hein.
L'étape d'après, elle saute chez vous et elle a la gendarmerie avec les gars.
Bon, et on continue. Donc protection des, encore une fois, des fréquences. Donc l'équipement VHF doit assurer une veille efficace de la voie 70, donc il est toujours finalement en veille sur cette voie. Et quand on entend du trafic de détresse sur la voie 16, là donc en phonie, puisqu'en fait on ne peut jamais émettre sur la voie 70, c'est le système qui émet des trams numériques, donc en fait il n'y a pas de phonie sur cette voie-là, on ne peut pas émettre réellement de la phonie. En revanche, sur le trafic de détresse, donc sur la voie 16, donc quand on entend une communication de détresse, évidemment on doit cesser immédiatement toute émission et rester à l'écoute, rester en veille. Comment empêcher les émissions non autorisées? Alors, non autorisées sur la voie 16, en fait, c'est éviter l'occupation abusive des fréquences de détresse, donc de la voie 16. C'est-à-dire qu'on essaye de donner, quand on émet sur cette voie, on essaye de pas trop l'utiliser, ou tout au moins, si on est amené à donner plus d'informations, on demande à changer de fréquence et on se met sur un canal, sur une voie de dégagement. Je vous précise, on continue la communication sur la voie 6, la voie 72, je crois, etc. Enfin voilà, les possibilités de voie de dégagement. Et donc parce que évidemment l'occupation abusive de cette voie correspond finalement à du brouillage préjudiciable. Et donc c'est assimilable à une perturbation. Évidemment, toute émission pouvant causer des brouillages préjudiciables sur la voie 70 ou sur la voie 16 est interdite. Ça, on le dit, on le répète suffisamment souvent. Donc, encore une fois, afin de faciliter la réception des appels de détresse, toutes les émissions sur la fréquence 56-800, donc c'est la voie 16, doivent être réduites au minimum et ne pas dépasser une minute. Or donc c'est ce qu'on disait. Une minute, on commence à... c'est assez long quand même. Hein. Enfin, comme... Ouais. Voilà. Voilà. Alors autour de la voie 16, donc de la voie de détresse téléphonie, la voie d'appel téléphonie, on a ce qu'on appelle des bandes de garde. Quand on avait vu le tableau des fréquences, j'aurais dû le rajouter là. Les deux fréquences qui sont à droite, enfin, en dessous, et deux canaux en dessous et au-dessus de la voie 16, sont des canaux qu'on appelle des canaux non utilisés, qui sont la bande de garde. C'est-à-dire que c'est pour éviter que des communications sur ces deux voies-là bavent, finalement, et débordent sur la voie 16 et empêchent la voie 16, empêchent l'écoute de la voie 16. Et de même, alors toutes les précautions doivent être prises pour des brouillages préjudiciables à la voie 70. Lorsqu'on utilise du coup la voie 10 et la voie 11, qui sont adjacentes, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les canaux, enfin les voies, elles étaient intercalées les unes dans les autres. Ça a été fait, je ne sais pas par qui, mais c'est assez compliqué. Donc en fait, de chaque côté de la voie 70, c'est pas la 69 et la 71, ça aurait été trop simple, c'est la voie 10 et la voie 11. Et donc, pour éviter, encore une fois, des brouillages sur cette voie, bah, on essaye de limiter au maximum les communications, ou tout au moins on utilise une puissance réduite sur ces deux canaux-là. Ouais. Ah non, vous passez de 10 à 11. Mais si vous regardez les fréquences, c'est-à-dire si vous regardez, si vous aviez un récepteur, Mais un récepteur sans canaux, mais avec les fréquences. Ah bah oui. Ah oui. Ah oui, ils sont intelligents quand même. Si on raisonne en canaux, tout va bien. Mais quand on regarde en termes de fréquence, on se dit, mais c'est quoi ce merdier? Ben oui, et après, les... Oui. Oui, il passe à 12,5. À 8,33, voilà. Donc ils en mettent 3 dans le même... D'accord, oui. Je vous ai mis un petit schéma là, qui peut être plus simple. Donc ici, c'est mon canal 16, donc c'est ma voie de détresse. Et là, sur mon canal 16, bah, j'ai un tout petit signal qui fait... parce que là, j'ai un émetteur qui fait 5 watts. Hein. Quand on a 5 watts, en fait, ça a cette forme-là. Si on a 10 watts, par exemple, ça va cette forme-là, mais on voit que là, c'est un peu plus large, du coup. Hein, puisque ça a une forme de cloche. Donc systématiquement... et puis si on a 25 watts, et ben là ça prend encore plus de place. Donc si j'émets sur ma voie 16 avec 5 watts, alors évidemment c'est encore pire si j'ai 1 watt, hein, inutile de le dire. Bon, c'est peut-être un peu plus, moins pointu là, c'est peut-être un peu plus évasé. Donc avec 5 watts j'émets ça, donc je déborde pas sur mes deux canaux là de chaque côté. En revanche, si j'ai 25 watts sur mon canal 16, je prends tout, mais c'est pas de problème puisque ici, encore une fois, j'ai rien. En revanche, si j'avais eu quelqu'un qui avait 25 watts sur ce canal adjacent là, eh ben je suis certain que mon petit signal ici avec 5 watts aurait été, alors peut-être pas noyé, mais au moins aurait pu avoir des problèmes de réception parce que ça, c'est ce qu'on appelle on appelle ça, nous, radioamateurs, des splatters. Voilà, c'est-à-dire qu'on bave. Voilà. Des moustaches. Ça peut. Là, c'est un peu exagéré, c'est vrai, mais, voilà. Oui? 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 Et inversement? En fait, on l'entend pas, mais on entend du bruit. Ça génère du bruit. Ah oui, on n'est pas du tout sur la même fréquence, mais on entend du crachouillis. Ça augmente le niveau de bruit. Et comme ça augmente le niveau de bruit, la station qui est faible, elle sort encore plus difficilement du bruit. Et en plus, le récepteur lui-même, il devient sourd. Si vous avez une station qui est très forte à côté, en fait, ça sature complètement, même si le récepteur y filtre, en fait, les filtres, ils sont saturés. Ouais, c'est 25. Ouais, 1 watt. Normalement, c'est 1 watt, 5 watts, 25 watts. Enfin... C'est à 3. Ah oui, mais ça change rien, ça. Ça change rien. Ça, c'est les canaux qui se... Vous écoutez la bande FM, vous comprenez tout de suite. Hein. La bande FM, quand vous avez deux stations qui sont proches l'une de l'autre, quelquefois, votre récepteur, il ne sait plus. Hein. Ça, c'est classique. Hein, pourtant, les deux fréquences, elles sont bien séparées. Mais c'est votre récepteur qui en... Enfin, où il y a des puissances qui sont trop importantes qui rentrent dedans, et ça sature complètement votre... et si bien qu'il ne sait plus faire la différence entre les deux stations. Ouais, il ne faut pas que ce soit trop proche. Donc après, plus on réduit la largeur des canaux, plus on est...
Parce que ça Vous essayez avec un web, si on n'arrive pas à se faire entendre, on passe à 25. Et par contre, si c'est un appel d'urgence, vous appelez 25. Si la batterie est bonne, c'est sûr d'être bon.
Mais si c'est pour un appel...
Si c'est pour un appel au standard, machin, essayez d'abord un web, ce sera meilleur pour la batterie, et si ça passe à un web, c'est pas la peine de faire pas.
Même le squelch...
Ah, le squelch, en fait, le... Ah non. Non. Ah non, le squelch, il fixe juste le niveau de bruit.
Le niveau de bruit, c'est-à-dire en absence d'émission. Sinon, quand il n'y a personne, on baisse le
machin. Ouais. Juste à la limite du bruit. Ça, c'est un peu énervant. Au bout d'une heure, on en a plein... Voilà. Ouais. Les protocoles et procédures d'essai. Aucun essai de transmission de radio téléphonique ne doit être effectué. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'utiliser la voix 16 et de dire « Allô, est-ce que vous m'entendez bien ?» Est-ce que ça marche ? Alors oui, alors sur la 70, sur la 70, ça c'est le système qui ne peut pas émettre sur la voie 70 des signaux d'essai. Il ne peut pas émettre de signaux d'essai sur la voie 70. Sur la voie 16, comme on est en radio téléphonie, ça doit être si possible réduit et même normalement ça ne devrait pas être utilisé. Donc il y a une fonction de test interne dans le menu du logiciel qui permet de vérifier si ça marche bien. Alors là, ça dépend encore, je suppose, du matériel. Alors il est recommandé de faire un essai de transmission ASN avec une station côtière ou un navire en appel de routine format individuel et pas évidemment en appel de détresse. C'est appel contact les communications d'ordre général. Essayez de le contacter. Voilà. Un message de routine. Il y a dans le menu, il y a un truc routine. Il y a un truc qui s'appelle test routine. Pour entrer en contact avec un navire dont on connaît le MMSI, on sélectionne Individual, on saisit le MMSI du navire, et donc en catégorie d'appel, on le met routine. Et donc dans ce cas-là, ça envoie un message ASN à ce navire qui va vous dire j'ai reçu ou pas reçu. Et qui va voir ta position si tu as le GPS. Ah mais tout le monde autour, hein. Non. Si, parce que de l'autre côté, j'espère que son correspondant va lui répondre. Non mais il faut qu'il soit dans un... Enfin, il contacte un navire à proximité dont il connaît le... Ouais, voilà. Ouais. C'est un peu compliqué, hein, j'avoue. Mais il est portable, il va lui téléphoner. Il fait la même chose.
Donc, t'as ses coordonnées et la vitienne.
Oui. Tu peux pas faire autrement. Hein. Ouais. Parce que faire un all station, ça m'embête un petit peu quand même. Ouais.
appelle. Ouais,
chez celui qu'on appelle.
Un appel sélectif. Donc si c'est sélectif, il n'y a que lui qui sait que ça s'adresse à lui.
Mais par contre, le récepteur, il reçoit. Ouais, ça envoie un message.
Alors, je sais pas, dans le bateau, le bruit, ça fait... Là, quand tu téléphones à lui, c'est codé, c'est numérique. Mais si je prends un scanner et que je me mets sur 800 machins sur une fréquence de téléphone d'autre, mon récepteur, il va faire... Il va me donner un bruit que je pourrais pas décoder. C'est... Mais ça part par les ondes, donc c'est ça partout.
Mais le système va pas, enfin le klaxon ne va pas marcher parce que c'est pas pour toi, c'est pas pour lui.
Je pense qu'un klaxon c'est un appel sélectif. Donc le sélectif c'est dire que t'appelles tel bateau, chef bateau, ça fait quelque chose que je ne savais pas sur les
gens. Ah bah oui. Ça, ouais. Voilà. Ah non, tu peux pas. Mais non, mais le distress, tu le fais à Hall. Donc, il est automatiquement à Hall. Voilà. Et sinon, après, les individual, celui-là, tu peux... Alors, tu peux l'envoyer... Alors, c'est très con, parce que individual à Hall Station, c'est un peu con. Mais pourquoi pas. Mais sinon, individu... Et dans ce cas-là, tous les klaxons marcheront. En revanche, si tu fais individual... Et le code MMSI, il n'y a que la station dont le code MMSI. Ouais. Ouais. Avoir un signal, voilà, comme quoi elle a reçu un message. Ouais. Oui. Ça fait un poète. Non. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais.
Alors là, bah. 70, tu dis à individuel, tu lui donnes au site. Ouais. Tu envoies ça, et chez l'autre, ça s'affiche. Je suis sûr que quand tu retournes au menu, il est redevenu la toile et il en détresse. Parce que par défaut, quand tu appuies sur le bouton, il faut qu'il soit paramétré les tests.
Enfin bon. Là. Bah, oui, heureusement. Bon, donc, avant d'émettre sur l'une quelconque des fréquences définies, pour le trafic de tétresse, on doit écouter si la fréquence est libre. C'est con, mais bon... Alerte de détresse, on y arrive. Donc, dans le système SMDSM et en onde métrique, l'alerte est transmise par ASN sur la voie 70. Et alors c'est exactement en modulation de phase et pas en modulation de fréquence, comme on l'entend souvent. C'est presque pareil. Au bruit, c'est la même chose. Ça crache pareil. Les messages d'alerte sont conçus à l'aide de logiciels intégrés aux émetteurs et sont transmis automatiquement 5 fois de suite sur la voie 70 avec un système de codage très robuste. Alors quand on dit un système de codage, ça c'est pour les informaticiens. Donc chaque bit est codé sur 10 bits, enfin chaque caractère est codé sur 10 bits. Les 7 premiers bits du code contiennent l'information et les 3 derniers assurent la détection d'erreurs et de transmission et de réception. L'émission et la réception se font en phase. Voilà, donc c'est du CRC, voilà, pour les informaticiens. L'émission et la réception se font en face, qui s'initialise par une transmission de points qui correspond à une sorte de top horaire. Donc au départ, les deux, enfin les deux systèmes se mettent à causer pour être certain que les trames soient bien en phase. Et après, la vitesse de transmission, c'est 1200 baud, sachant que chaque caractère est transmis deux fois avec un étalement de 33 millisecondes. Donc, avec tout ça, normalement, votre signal, il doit arriver non altéré. En fait, le but, c'est d'essayer de trouver un système, parce que le problème, c'est que vous avez des parasites, vous pouvez avoir des parasites, ou du brouillage, et si bien que il y aura peut-être des caractères qui seraient mal interprétés par le système de réception, et que donc, voilà, du coup, l'information n'est pas fiable. Donc le système est fait de telle manière que l'information doit être absolument certaine, qu'il n'y ait pas de doute. Voilà, le bateau il coule. Voilà. Ouais, ou
les coordonnées sont les bonnes.
Voilà, c'est surtout les coordonnées GPS qui sont les bonnes, ouais. Ouais, ouais. Non, un peu plus, hein, parce que, attends, c'est répété. Ouais, oui, mais il te renvoie ça, il te le renvoie 5 fois de suite, donc grosso modo, c'est à peu près 10 secondes un message. Bon, une fois que t'as mis tout ça bout à bout. Ah ouais. Ah ouais.
Non, mais tu l'envoies toujours 5 fois.
Quand même 5 fois.
Si les 5 fois c'est pas bon, qu'il y a un problème au CRC, il y a un truc. Il y a la CK avait pas envoyé, donc ça veut dire que l'autre envoie. Tous les systèmes de détresse automatiques sont.
Bah oui.
Ça, c'est envoyé ça.
Ouais. Bah oui, parce qu'il y en a peut-être un.
Ça repart.
Bon. Comme tous les signaux d'alarme en radiotéléphonie, tout navire en détresse adresse un appel à tous, ou all ships. Donc c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure un all station. Qui s'adresse aux stations côtières et stations de navires à proximité. En principe, c'est le cross, situé dans la zone de détresse, qui répondra à l'appel. L'alerte de détresse doit fournir. Donc dans la SN, on va avoir le code MMSI, la position GPS, alors soit par l'intermédiaire d'un système GPS qui est intégré, ou alors on rentre la position manuellement. Ce qui est quand même assez maintenant, avec la technologie, c'est un peu dommage d'en arriver là. Et les renseignements suivants doivent être fournis. La nature de la détresse, donc voilà, par exemple, là, il y a toutes les natures de détresse, et vous avez les petits boutons, là, up-down, pour monter ou descendre, et sélectionner celui que vous voulez. Autre solution, en cas de détresse extrême, il y a le bouton distress, on appuie dessus, et ça se débrouille tout seul, et on ne dit pas la nature de la détresse. Ça donne juste la position si c'est relié à un GPS. Et ça envoie évidemment le code MM ici, puisqu'il est déjà codé, lui. Ça envoie l'heure, encore une fois automatique si c'est relié à un GPS, puisque dans le GPS, en plus, il y a l'heure. Dans le signe. Et c'est l'heure vraie, donc l'heure vraie, c'est... Ça, c'est un truc. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils se repèrent. Hein. C'est grâce à leur horloge qu'on repère les satellites GPS. Parce qu'en fait, ils envoient des tops en même temps. Mais quand on dit en même temps, c'est à la nanoseconde près. Et comme avec la propagation des ondes qui sont à 300 000 km par seconde, là, c'est, en fait, on regarde le déphasage entre les satellites. Dans le signal du satellite, il envoie sa position par rapport à la Terre. Et donc, le calculateur, en fonction du décalage qu'il y a eu entre les réceptions des différents satellites, c'est comme ça qu'il sait où il est. Donc, c'est assez sioux. Et la basse, c'est l'heure. Voilà. Donc, je rappelle quand même UTC, Universal Time Coordinated, c'est l'ancien GMT, le Greenwich Mean Time, c'est la même chose, hein. Mais GMT, donc c'est l'heure de Greenwich, hein, l'observatoire à côté de Londres. Donc UTC, c'est la nouvelle, ou étant universel en français. C'est l'heure locale, moins 1 heure l'hiver et moins 2 heures l'été. C'est l'heure zoulou, ouais. Mais c'est la même idée, hein. C'est la même idée. L'indication de la classe d'émission qui sera utilisée lors de l'échange ultérieur, et nous, comme on n'utilise que la VHF, on ne peut mettre que la voie 16. Les 11 messages de détresse prédéfinis, il y en a 11, et ils sont la plupart du temps désignés en anglais. Ici, j'ai mis le mot en français. Donc, indéterminé, alors évidemment, et éviter ce genre de message, parce que comme ça donne vachement d'informations. Sinon, vous avez incendie, voie d'eau. Ah voilà, exactement. Quand on appuie sur distress, il sait pas, donc il met ça. Mais c'est à éviter. Voilà. Ah oui, ça affiche ça. On ne sait pas ce qu'il y a. Ah bah oui, et à ce moment-là, on a reçu un appel du CROSS en disant quel est le problème. Enfin, généralement, quand on appuie dessus, c'est que ça. Voilà, donc les messages de détresse prédéfinis, donc fire explosion, flooding, collision, grounding, donc échouement, listing in danger of capsizing, donc danger de chavirement, sinking, le navire court, disable and adrift, donc désemparé et à la dérive, abandoning ship, donc abandon de navire, man overboard, homme à la mer, et piraterie, agression, piracy, armed robbery, attack. Voilà les 11 messages prédéfinis, dont l'indéfini. Et on va voir les différents types d'annonces. Donc là, je vous ai mis dans l'ordre dans lequel on va les voir. Donc on a déjà d'abord l'envoi d'alerte, l'accusé de réception et les différents types d'accusé de réception, la réception d'une alerte de détresse, les communications sur site, l'annonce d'urgence, de sécurité, la fausse alerte, la correspondance publique et dans le menu, un menu qui répertorie l'historique des messages reçus par la machine ou émis d'ailleurs. On y va. Envoi d'une alerte de détresse. Donc ça, c'est un message simple. Message simple, c'est à éviter, puisque c'est à n'utiliser qu'en cas d'extrême urgence. Donc vous êtes à bord du navire Thétis, indicatif FT 9876. Ça, vous l'avez déjà rentré dans votre machine, dans la machine. Le code MSI 227 132 120. Donc tous ces paramètres sont déjà rentrés. Thétis, il n'y a pas besoin de le rentrer dans la machine. Votre VHF n'est pas couplé à un GPS. Alors là, c'est une faute, presque. Et vous n'avez pas saisi les coordonnées GPS, hein, puisque vous avez fait un appel de détresse rapide. Voilà. Et donc, vous appuyez pendant 5 secondes sur la touche Distress. Et voilà ce qui se passe. Il s'affiche. Type Distress. Message. Voilà. Inconnu. Pas de position. Pas d'heure. Comme ça. Voilà, donc vous envoyez ça. Comment? Bah oui, mais oui. Et te sauver. oui, mais encore faut. Bah si par exemple t'as pas le talkie-walkie, c'est une station fixe. Il y a le feu, tu te barres du bateau, t'as pas de talkie-walkie, tu fais quoi? Ouais, tu. Voilà. Bon, on verra après. Donc là, vous faites un message détaillé, un peu plus intelligent. Donc vous êtes toujours à bord de votre navire des Tétis, toujours là, le même indicatif. C'est ce que vous. C'est en fait, c'est sur la licence. C'est l'indicatif, c'est l'immatriculation du bateau. En fait, il y a deux immatriculations. Pareil, ouais, sur les navires, sur les bateaux de pêche, ouais, sur les bateaux de pêche, il y a marqué au-dessus, généralement sur au-dessus de la cabine. Ouais. Mais on. Bah, il y en a un, mais il n'est pas indiqué. Non, là, c'est pas une obligation. Ah oui, mais ça c'est autre chose, ça. Ça, c'est le port d'attache, ça. C'est pas le port d'attache, c'est l'indicatif radio, ça. C'est autre chose. C'est le port d'attache, ça. C'est l'immatriculation, ça. C'est la. Ouais. C'est la carte grise. Donc, vous avez couplé un GPS à votre VHF et vous voulez signaler le voie d'eau. Donc ce que vous faites, là, plutôt que d'appuyer violemment sur le bouton distress, vous appuyez sur call, hein, quand on revient là sur mon truc, où est-ce qu'il est? Il est loin là, maintenant, voilà. Hop, call, il est là. Donc vous appuyez sur call et après vous avez tout le menu déroulant, vous faites monter et descendre là pour savoir ce que vous voulez exactement. Alors il n'y en a aucun qui est foutu pareil, hein. Sur le matériel qu'on avait vu, le petit matériel, il y avait une touche call aussi, je ne sais plus où elle était, mais enfin bon, où on pouvait appeler, il y avait la touche distress et la touche call. Donc vous faites touche call, après, à l'intérieur, vous sélectionnez le format distress, puisque vous allez avoir distress, safety, urgence, voilà, enfin urgence sécurité, individual. Quand vous voulez appeler quelqu'un en particulier, donc distress. Et après, il vous demande quel type de distress. Donc vous sélectionnez flooding puisque c'est une voie d'eau et que vous connaissez bien ce que la traduction de ce joli terme anglais. Flooding. Voilà. Voilà. Comme ça, c'est tranquille. Et après, vous appuyez sur accept. Donc accept pour valider. Et après, donc, à la fin, soit vous faites cancel si vous voulez modifier votre message, si c'est pas flooding, si c'est je sais pas quoi, le navire entre-temps il est passé en feu, donc vous changez votre type de détresse et vous appuyez sur send, envoyer. Hein, cancel, arrêter et send, envoyer. Et donc l'écran qui tout à l'heure indiquait juste distress et non déterminé. Maintenant, il indique flooding, votre position et l'heure. Et évidemment aussi, ça envoie votre code MMSI et votre indicatif, évidemment. Mais vous avez pas le. Enfin, vous savez ce que vous avez fait quand même. Donc voilà, ça affiche ça. Attente d'un accusé de réception. L'accusé de réception d'une alerte ASN est en règle générale effectué par une station côtière, dont le code commence par 0MID, enfin double 0MID, toujours sur la voie 70. Elle est toujours au format all ships, donc à tous les navires, et donc vous attendez. Vous attendez cette. Et donc en attendant, une fois que le message a été envoyé, votre écran indique en attente d'un accusé de réception, entre parenthèses 16, ça veut dire que vous allez répondre en téléphonie sur la voie 16. Parce qu'évidemment, après avoir envoyé ce message, vous allez sur la voie 16 pour entrer en communication avec la station côtière et donner plus d'informations. Et là, on reprend ce qu'on avait vu pour la téléphonie. Et là, donc, ça vous indique que ça retransmet le message toutes les 4 minutes. Ouais. Voilà. Voilà. Exactement. Donc vous avez envoyé votre message. Voilà. Et toutes les 4 minutes, il renvoie tant qu'il n'y a personne qui répond. C'est long. Ouais. Alors. Alors, là, vous recevez, alors généralement, vous attendez pas 4 minutes, ben on va espérer. Donc, vous recevez un accusé de réception de la station terrestre. Donc là, c'est le cross, je ne sais pas lequel, puisque j'ai un double 0227. C'est en France, déjà. Qui a reçu votre appel de détresse, et donc, votre écran affiche « Distress », donc votre accusé de réception de votre appel de détresse. En français dans le texte là. Et donc il a été reçu par le 00227-5140. Donc c'est une station côtière. Et comme vous avez reçu un nouveau message, VHF envoie votre signal sonore, comme quoi vous avez reçu un message. Oui, d'accord, mais MID, c'est pas MID, c'est le code pays. C'est le code MID. MID correspond au pays. Le MID, c'est le générique, voilà. Voilà. Ça aurait pu être aussi 229, hein, puisqu'on est en France. Hein, c'est des chiffres à chaque fois. Hein. C'est pas des lettres, il n'y a que des chiffres. Donc, il y a un message reçu. Et évidemment, dès que vous avez reçu ce message d'accusé de réception, votre système va pas le renvoyer. Il est quand même intelligent, vous avez rien à faire, il va savoir que c'est reçu, donc il s'arrête de l'envoyer. Vous avez, vous, pas de manipulation à faire pour arrêter la réémission. Donc vous stoppez l'alerte, et puis donc vous voyez l'accusé de réception. Voilà. Et donc, voilà le message complet qui va être reçu par, affiché sur votre écran. Donc, on va voir l'heure, la date, distress, call, c'est un accusé de réception, votre numéro, vous, comme quoi vous avez une voie d'eau et votre position. Et dans ce cas-là, vous savez que là, c'est bien reçu. Et donc, vous sélectionnez la voie 16, et puis vous commencez, finalement, à envoyer votre message en téléphonie, comme on avait vu dans les procédures de téléphonie. Donc, vous allez dire... Alors, ça ne sert à rien, du coup, de répéter l'en-tête, finalement, du message de téléphonie où vous disiez « m'aider, m'aider, m'aider », etc. Là, c'est déjà fait, finalement, via l'ASN, et là, vous donnez juste votre message, finalement. Ben non, puisque c'est fait. C'est fait. C'est juste repréciser Mayday, ici le nom du navire, le code MMSI, l'indicatif, c'est-à-dire que être certain que c'est bien le bon. Mais on le donne qu'une seule fois, il n'y a pas besoin de le répéter 3 fois comme on le faisait avant. Pour être certain que la personne en face reçoive bien le message. Voilà. Et donc on donne la position du navire, la nature de la détresse, le type d'assistance requis, comme on avait vu dans les positions en détresse. Alors, exemple, donc là, on va dire Mayday. Ici, vous voyez Sirius. Donc là, on donne le code MMSI, mais on donne chiffre après chiffre. Hein, on dit 227.159.280 pour être certain qu'on se plante pas. L'indicatif est FH2827. Position à 11h, donc on donne la position. Navire en feu. Voilier coque bleue, 4 personnes à bord, à vous. Et donc à la suite de cette prise de contact, eh bien, on fait le trafic de détresse habituel. Et donc au début, en début de message, on donnera toujours Mayday, et à la fin, on dit à vous. Pour dire à l'autre, bah allez-y, c'est à vous de parler. Ou over en anglais. Une sorte. Voilà. Réception d'un appel de d'une alerte de détresse, parce que là vous êtes sur un autre navire et vous recevez une alerte de détresse de votre de celui tout à l'heure, c'est vous qui le recevez. C'est-à-dire que ça va aussi klaxonner chez vous, non seulement au cross mais aussi sur votre récepteur, et donc là ça va apparaître distress call received from, donc là c'est le navire qui avait lancé son appel de détresse, le 132-120. Donc vous arrêtez l'alarme sonore et vous lisez le message. Et le message, c'est celui-là, hein, c'est le même, hein, évidemment. Donc deux cas peuvent se produire. Soit la station côtière accuse réception, ou alors aucune station côtière n'accuse réception. Et à ce moment-là, vous pouvez essayer de prendre contact avec la personne. Faut attendre. Ouais. Normalement, c'est la station côtière à répondre. Donc la station côtière répond immédiatement. Donc voilà. Et donc dans ce cas-là, vous écoutez juste la voix 16, hein, sans rien faire. Évidemment, vous essayez pas de vous immiscer dans la conversation, sauf si on vous le demande. Mais bon, voilà. Rien de plus que tout à l'heure. Voilà. Une station côtière. On fait rien. La station côtière prend la main. Puisqu'on le voit là, c'est la station côtière qui a pris la main, puisque là, on voit qu'il y a un double zéro. Donc c'est une station côtière qui a répondu. C'est immédiat. Ah oui, si ça répond pas, ouais. Ah oui, double zéro, toujours. Parce que on a droit à trois codes. Parce qu'on a plein de bateaux. Ah oui, oui. Ah oui. Donc les stations côtières peuvent, après avoir accusé réception d'une alerte de détresse, émettre un relais de détresse adressé à tous les navires ou à un groupe de navires ou à un navire particulier pour essayer d'aller au plus vite sur zone. Et donc la station côtière ayant fait parvenir des informations au cross devra, à la demande de ce dernier, émettre un relais de détresse. Et donc le relais de détresse s'adresse à tous les navires. Voilà. Donc là, vous allez recevoir ce type de message en demandant finalement d'aider quelqu'un qui se trouve sur cette position-là. Un navire en feu sur cette position-là. Oui. Ah ben parce que tu l'entends pas. C'est en voie 70. C'est des machines qui se parlent, tu les t'entends rien du tout et tu te mets sur la voie 70, t'entends un boum boum boum. Et là, ce sont des communications entre systèmes sur la voie 70. Des communications automatiques. Parce que celui-là, il est adressé à tous les bateaux. Il est adressé aux ships. Et donc, dans ce cas-là, ton ASN, il sonne. Parce qu'il est aux ships. Mais en phonie. Oui. Ça aurait pu être fait en ASN. Ouais. Bah sauf si t'es trop loin, quoi. Sauf si ton. Parce que l'ASN, ça marche aussi à une certaine distance. Oui, normalement, ça devrait être pareil, ouais. 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 Qui n'en ont pas, ouais. Et avec des VHF classiques. Ah ouais? Je sais pas. Sur voie 16, mais. Bah, oui, mais enfin. Et donc, on sait pas si ça marche. Oui, mais enfin, c'est. Enfin. Mais... Oui, à faire des manips comme ça. Déjà que tu sortes le manuel pour comprendre comment il marche. Ouais. Oui. Oui. Oui, non, mais t'as raison, oui. Ah oui. Tu te rapproches, ouais. Oui. Oui. C'est. Ouais. Alors, lorsqu'une on y va, parce que là, on n'a pas encore fini, là. Ouais. Lorsqu'aucune station côtière n'accuse réception, le renou... enfin, avant le renouvellement de l'alerte, donc après les 4 minutes, donc votre VHF affiche toujours le message, évidemment. Alors, si vous possédez une ASN de classe A ou B, donc ça c'est pour plutôt le matériel professionnel, vous pouvez accuser de réception sur la voie 70. Parce que le système le peut. En revanche, si vous avez une VHF ASN de classe D, là vous ne pouvez pas accuser de réception, vous n'avez pas la fonction. Donc là, il ne vous reste plus que finalement la phonie, la voie 16. Et donc on. Il y a un journal, oui.
En cas d'enquête, il y a un problème derrière, c'est dit à quelle heure il appuyait sur le bouton accusé réception.
On connaît tout, là. C'est les boîtes noires, quoi.
C'est pas j'accuse réception, puis je m'en lave les mains après. C'est où il prend le cross, il appelle station routière par un autre moyen, ou mais derrière, il y a une action à donner. C'est quoi, il faut appuyer sur le bouton, faire ta gueule, ça fait plus de temps à gagner.
Ouais. Oui. Il peut. Oui. Alors ça, Samsung. Ouais. Oui. Enfin, par un système. Voilà. Oui. Ouais. Communication sur site. Donc ce sont les communications échangées entre les naufragés, les navires et les aéronefs de la marine nationale par exemple qui sont sur la zone de détresse. Et dans ce cas-là, les voies utilisées sont la voie 16 et la voie 6 pour le dégagement. Donc la voie 6, je rappelle, c'est communication de navire à navire, mais on a aussi la 8, la 72 et la 77 à notre disposition. Ce sont des voies simplex. Donc, les coordinations de search and rescue, donc de recherche et de sauvetage. Donc ces opérations sont coordonnées par des organisations SAR et dans le cadre du sauvetage maritime, ce sont les CROSS. Hein. Ce sont les CROSS, mais aussi avec les navires qui se trouvent au voisinage. Et on peut utiliser des techniques numériques, de transmission numérique, donc ASN. Donc le CROSS ou le MRCC en anglais donc répercute l'appel et dirigera les navires vers le lieu de la détresse. Et puis après donc on évalue le CROSS évalue tous les renseignements qu'il a en sa possession afin de déterminer l'urgence et l'ampleur des opérations à mettre en œuvre. Enfin, bon, c'est du Alors, trois phases d'urgence. La phase d'incertitude. C'est-à-dire qu'on a reçu une alerte, mais est-ce que c'est pas un déclenchement intempestif d'une balise? Voilà, grande question. Autre chose, il n'y a aucun signal qui a été émis, mais par contre, le bateau n'est pas arrivé à destination. Ou n'a pas signalé sa position à l'heure prévue. Donc ça, c'est éventuellement, est-ce que, dans le premier cas, j'ai reçu une alerte, mais je ne sais pas si c'est bon. Dans le deuxième cas, j'ai pas d'alerte, mais il y en a peut-être, enfin. Voilà, il y en a peut-être une à déclencher. Donc ça, c'est la phase d'incertitude. La phase d'alerte, donc, c'est que les tentatives... Alors, un, dans le cas dans les deux cas de figure, c'est que les tentatives de contact ont échoué, ou que les informations laissent penser que le navire est en difficulté, sans toutefois qu'il y ait aucun signal de détresse. Et enfin, la phase de détresse, c'est que les renseignements reçus indiquent que le navire est en détresse. On ne sait peut-être pas où il est, mais il est en détresse, ou que les tentatives de contact sont restées sans résultat, donc voilà. Donc il y a deux, donc de la phase d'incertitude, on passe soit en phase d'alerte ou en phase de détresse. Donc ça c'était plus du vocabulaire qu'autre chose, hein, d'ailleurs. J'ai pas vu de questions beaucoup dessus, mais comme c'est signalé dans le bouquin, ça peut peut-être tomber. Les radiocommunications d'urgence, évidemment, ont priorité sur celles de détresse. Priorité sur toutes les autres communications sauf celles de détresse. C'est-à-dire que, on recommence comme dans la radiotéléphonie. Et ça se déroule en deux étapes. L'annonce d'urgence, donc via la SN, puis le message d'urgence en téléphonie. Donc on recommence un peu ce qu'on avait vu pour l'appel de détresse. Donc à la réception d'une annonce d'urgence, ça affiche ça. Donc urgency, le code MMSI, et là les deux canaux sur lesquels il peut y avoir dégagement, en l'occurrence ici ça va être la voie 16. Donc on attend une communication sur la voie 16. Donc les communications. Alors donc il n'y a pas d'accusé de réception des avis d'urgence. Il n'y a pas d'accusé de réception. Quand on reçoit ça, on se met toujours sur la voie 16 parce qu'on sait que le message va arriver sur la voie 16. Et donc, dans ce cas-là, on envoie l'appel d'urgence. Et là, on refait la même chose que pour la radiotéléphonie, en fait. Exactement la même chose. Donc, trois fois, panne, 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 à tous, ici Neptune, etc. On reprend la même manière de lancer un appel d'urgence que pour la téléphonie. Les radiocommunications de sécurité, ça marche pareil. C'est-à-dire qu'on n'envoie pas d'accusé de réception d'un appel. On envoie une annonce de sécurité par ASN et on dit tout de suite, alors là on n'envoie pas sur la voie 16, mais on l'envoie sur la voie 1. La voix comme ça. C'est tout, c'est nous qui choisissons. Ouais, exactement. Voilà. On peut mettre le 6 ou le 16. Et donc, dans ce cas-là, on refait la même chose que pour la radiotéléphonie. Donc, sécurité, etc. Et on donne notre message. Point barre. Procédure en cas d'émission d'une fausse alerte de détresse. Ah. Si vous avez appuyé sur le bouton par hasard. Pas bien. Donc dans ce cas-là, quand vous avez un appareil en classe D, vous ne pouvez pas émettre de message de fausse alerte. Il n'y a que le classe A qui peut le faire, ça. Donc comme vous n'avez pas cette fonction-là, vous êtes obligé de revenir en téléphonie. Et donc là, vous dites à tous, ici, le nom du navire trois fois, l'indicatif d'appel, le code MMSI, veuillez annuler mon appel de détresse de l'heure, la date, etc. Et vous restez en veille sur la voie 16 au cas où il y ait quelqu'un qui a envie de vous engueuler, ouais. Ou qui n'ait pas compris que c'était une fausse alerte. Voilà. Donc voilà, procédure de fausse alerte. Communication publique, donc là c'est quand vous voulez contacter quelqu'un. Donc vous mettez sur la voie 10, dans le menu d'appel vous sélectionnez Individual, vous composez le code MMSI de la station que vous voulez appeler, là en l'occurrence, alors je sais pas ce que c'est ça, il y a un double zéro, donc c'est une station côtière, je sais pas quoi, routine, duplex, donc vous allez être avec des canaux, un canot émission et un canot réception différenciés. nos infos, je ne sais pas ce que c'est, choisir la voie du trafic, donc le canal 25 qui est normalement un canal en duplex, ben j'espère, de mémoire, oui, et vous demandez l'accusé de réception, request, et donc là, la station côtière vous mettra en communication avec celui que vous avez demandé. Je pense que en l'occurrence, là, c'est pour demander un numéro de téléphone. Voilà, donc vous envoyez. Ouais, comme si c'était un essai. Donc la VHF passe en attente d'accusé de réception, et quand la station côtière répond, eh bien on peut commencer. Donc on se met sur la voie 25 et la communication peut commencer. Donc on dit, on commence par dire ici le code MMSI, et donc la communication peut être faite avec votre correspondant. Et donc là, c'est sur le réseau commuté, donc le réseau téléphonique. C'est pour ça qu'ici, on ne met pas un numéro français, parce que ça n'existe plus en France. Donc ça ne peut être qu'étranger. Alors je ne sais pas quel pays c'est, ça, mais... Voilà. Et donc, voilà, une fois que vous avez fait votre communication, bah, vous raccrochez après, évidemment. Comme pour, d'ailleurs, comme en radiotéléphonie, hein, ça marche de la même manière, après. Historique des messages. Donc tout appel à SN reçu ou émis est enregistré dans l'équipement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et donc on peut afficher la liste des messages avec la touche Receive. Ça reste en mémoire. Alors combien de temps, je ne sais pas. Mais un certain temps. C'est vrai. Ouais. Je sais pas, ouais. En tout cas, j'ai cherché un peu partout, j'ai pas trouvé. Ah, nous voilà maintenant arrivés sur la cinquième partie. On va essayer de faire ça rapidement. Plusieurs systèmes intégrés dans le SMDSM existent. Alors, on a le système NAVTEX. On va voir ce que c'est des cartes météo, enfin pas des cartes, ce sont des informations météo, et ou c'est la sécurité maritime plus exactement. Le système d'identification AIS, et puis on a des signaux d'alerte et de localisation qui sont inclus dans le SMDSM, mais qui ne sont pas spécialement liés qu'au maritime. Donc les radio-balises de localisation de sinistre, les RLS ou EPIRB en anglais, les balises personnelles, donc c'est les PLB, les Personal Local Locator Beacon, des émetteurs AIS, typiquement c'est un système typique maritime ça, et les répondeurs radar, même chose, c'est typique maritime. Les deux premiers ne sont pas spécialement maritimes, mais ils font partie du SMDSM. Juste un truc, le téléphone satellitaire ne fait pas partie du SMDSM. Parce qu'avec ça, vous n'arrivez pas à savoir où vous êtes. Hein? Pourquoi? Le MMSI? Bah, c'est pour identifier ton bateau, point barre. Et donc le MMSI, c'est ce qui permet d'identifier ton bateau dans ce système-là. NAVTEX, donc c'est un système de diffusion ou de réception automatique des renseignements sur la sécurité marine. C'est très important, il y a plein de questions là-dessus. Il permet aux navires de recevoir automatiquement sous forme imprimée ou sur écran, généralement c'est sur écran, des alertes de détresse ainsi que des avertissements de navigation qu'on appelle des AVURNAV, avis d'urgence aux navigateurs, hein, et des bulletins de météo, donc les BMS, les bulletins météorologiques spéciaux. Il est assuré sur une fréquence unique suivant le service désigné. Donc il y a, en fait, il y a deux fréquences. Le 518 kHz où on n'a que des informations en langue anglaise. Et le 490 kHz où on n'a que des informations en langue nationale. Donc en France, c'est en français. Mais si vous allez aux Pays-Bas, c'est en néerlandais. En Allemagne, c'est en allemand, etc. Donc il y a systématiquement un programme en langue anglaise, même si c'est diffusé par les cross français, et un programme en langue nationale, et donc on s'est différencié par la fréquence. C'est aussi envoyé dans les zones tropicales, parce que le problème c'est que ces fréquences-là fonctionnent très mal entre les deux tropiques. Il y a des problèmes de propagation des ondes, si bien que ça marche très mal sur ces fréquences-là, et que donc on monte en fréquence, et donc ça marche sur 4205 kHz, enfin 4209 kHz. Donc ça c'est dans les zones dites tropicales. Ça c'est le problème de propagation des ondes. Hein. Ça marche très bien en Europe, enfin dans les zones finalement au-dessus des tropiques, mais intertropiques, 4000 et 4209.5, l'avantage c'est qu'on le reçoit aussi, enfin... avoir des informations météo du Sénégal, voilà, pourquoi pas, bah oui, ah en fait c'est un matériel spécifique, hein. 518 kHz, ah bah non, mais c'est un système automatique, t'achètes un récepteur Navtex, bah c'est une tablette, c'est une tablette. Parce que là, t'es en réception, là, uniquement. T'es en réception, là. T'aimais pas. Oui. La portée des émissions Navtex, donc, quand on est évidemment, quand on est ici, là, sur ces fréquences-là, c'est grosso modo entre 250 et 400 000. Hein, sur ces fréquences-là, qui sont, en fait, les petites ondes, hein. Et donc c'est en fait on est beaucoup plus loin que la zone A1, donc la zone côtière VHF. Ah bah oui, c'est quand même plus intéressant. Donc là ça c'est un écran Navtex. Alors ça c'est à partir d'un ordinateur. Donc vous pouvez vous servir d'un ordinateur avec une carte spéciale qui reçoit finalement les trams Navtex sur le 490 kHz ou le 518 kHz. Oui, au SMDSM, parce que c'est un système qui fait partie du SMDSM. Donc c'est un système d'émission coordonnée. Comme il n'y a qu'une seule fréquence, et ben en fait, chaque station émet l'une après l'autre. Chaque station côtière émet l'une après l'autre. Et comme vous avez vu qu'il y a 250 à 400 000, en fait, il y a tout un système qui font que les deux, comme elles émettent sur la même fréquence, que les deux émissions ne se marchent pas l'une sur l'autre. Que les stations côtières émettent, c'est tout un système assez compliqué. Ah oui, on va en parler après. Donc, il y a ce qu'on appelle un NAVAERA, donc des cartes. On va le voir après. Et donc, ce système NAVTEX, c'est coordonné par l'OMI. Et donc on doit avoir une distance entre chaque émetteur pour pas qu'ils se brouillent mutuellement. Donc chaque émetteur émet à tour de rôle pendant 10 minutes toutes les 4 heures. Alors pour ceux qui veulent les informaticiens, c'est du CITORB avec une correction d'erreur, donc sans voie de retour, parce que ça du coup, comme en fait on n'est qu'un réception, on n'a pas d'accusé de réception envoyé. Donc il y a un système, ça s'appelle un FEC. C'est du F1B, donc c'est de la modulation de fréquence. Le shift de 170 Hz entre le 0 et le 1, vitesse sans mot. Et donc, en fait, quand on utilise un récepteur classique pour démoduler ça, parce qu'on peut aussi, avec un récepteur classique et une carte son, et la carte son, on se met en USB sur 518 kHz ou 490 kHz, et le système fonctionne tout seul. Ça marche relativement bien. On reçoit ici les trams. Il y a Jean-Louis qui a F1 AG double, qui a développé un petit logiciel. Donc ça, c'est lui qui l'a développé, ces trams-là. C'est Jean-Louis qui avait développé ce truc-là. Hein? Ah, c'est possible. Donc, c'est un système automatique. Alors, évidemment, comme il y a toutes les stations qui émettent, on peut ne sélectionner qu'une seule station à proximité qui nous intéresse. Parce que sinon, vous allez recevoir en fait toutes les stations européennes les unes après les autres. Ça n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt, alors que vous, ce qui vous intéresse, c'est la situation, je sais pas, si vous êtes en mer d'Iroise, c'est la mer d'Iroise, et vous vous foutez complètement de ce qui se passe, je sais pas quoi, dans la Baltique, ou je sais pas où, moi. Hein? Donc en fait, vous définissez quels sont les types de messages que vous avez besoin, et le système ne garde pas en mémoire les autres messages. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi définir quels sont les types de messages que vous voulez garder. Est-ce que c'est les avertissements de navigation, les bulletins météo, voilà. Après, vous pouvez mettre des filtres, en fait, sur ce que le logiciel va garder. Pour information, alors, une fois que le message est reçu, tout va bien, mais par contre, on ne peut pas redemander une nouvelle. Puisqu'on est qu'en réception, on peut pas demander, en cas de brouillage, on peut pas demander une nouvelle fois le bulletin. Il faut attendre 4 heures pour le recevoir. Alors en France, ce sont les services Navtex se sont assurés par Le Crosse Lagarde et Corsen. Donc Lagarde, c'est Marseille pour la Méditerranée et Corsen pour toute la Manche. Ah oui, la Corse, oui, le Méditerranée. Et Corsen, c'est pour la Manche et l'Atlantique. Brest, ouais, Corsen, c'est Brest. Ah oui. Et donc ces MRCC, évidemment, ils diffusent un message, enfin des messages Navtex en français sur 490 et en anglais sur 518 kHz. Là, je vous ai mis une carte Navtex. Donc là, je vous ai. Alors là, en fait, on voit toutes les zones. Donc en fait, en tout, il y a 24 zones. Il y a 24 zones là, donc chaque pays, dans chaque mer, en fait. Et là, vous avez tous les, comment dire, les crosses finalement. Enfin, les services qui envoient ces cartes, qui émettent les uns après les autres, donc de A ici à finalement W. Donc ça commence ici par la mer du Nord et ça finit ici en France. Et en fait, ils émettent tous en même temps. Donc en fait, quand le A émet ici, c'est l'Espagne qui émet. Et donc comme ici, vous avez une distance qui fait plus de 400 000, les deux émetteurs ne vont pas se brouiller l'un l'autre. C'est pour ça que c'est fait de cette manière-là. Donc là, vous avez cette carte-là. Ici, vous avez tous ceux qui émettent. Donc là, c'est Ostende de mémoire. Ici, Corsen. Et puis ici, vous avez d'autres stations. Donc ici, les horaires. Donc ça, c'est les horaires de Corsen, ça. Donc qui émet. Donc il a des horaires A, finalement. Donc il émet à 0 h, à 4 h, à 8 h, à 12 h, à 16 h, à 20 h. Ça, c'est donc en anglais et en français les horaires E, donc à 0:40, à 4:40, à 8:40, à 12:40, etc. Et vous avez un tableau, alors qu'on peut retrouver, j'avais retrouvé ça, c'est peut-être plus très lisible maintenant, c'est peut-être plus lisible sur vos documents, où vous avez l'intégralité là des stations qui diffusent des informations Navtex. Le système. Alors, on peut les écouter en anglais puis en français, hein. 40 minutes. Et dans la langue du pays. Oui. Enfin, en même temps, ce sont des messages écrits, donc souvent l'écrit est plus facile à comprendre que l'oral. Hein? Il n'y a pas d'accent là. L'AIS. Alors, l'AIS, c'est un système d'identification automatique. C'est un truc, ça. J'ai découvert ça en préparant le cours. Donc, c'est quand même assez impressionnant comme truc. Et ça permet aux navires et aux systèmes de surveillance de connaître parfaitement l'identité, le statut, la position, la route des navires et de tous les navires. Donc, c'est un système. Comme son nom l'indique, hein, un système automatique identification system. Donc ça permet de définir la position de chaque navire. Il faut que le navire soit équipé. Et c'est un système qui fonctionne en VHF. Il y a deux voies, vous aviez vu dans le tableau d'affectation des fréquences, il y a deux voies, AIS1 et AIS2, où c'est un système automatisé, donc c'est un peu comme l'ASN, ça envoie des trams. Sauf que là, en fait, chaque bateau définit sa position et l'envoie. Et l'envoie à tous les gens qui sont aux alentours. Ce qui est gros, très intéressant, c'est du coup, c'est récupéré aussi dans les stations terrestres, et après, c'est diffusé sur Internet. Et donc, vous allez sur une carte, on va la voir après. Donc, ce système, ça permet d'identifier donc tous les navires avec son code MMSI. Donc le système envoie régulièrement ses propres données, reçoit les informations. Ah oui, il y a des récepteurs AIS, donc il y a des émetteurs-récepteurs où là on émet sa position, on reçoit la position, mais il y a aussi seulement des simples récepteurs où on est là juste pour savoir ce qui se passe autour de nous. C'est intéressant quand on a un voilier. Savoir si on a si un voilà si un porte-container qui nous fonce dessus. Voilà, les traversées de nuit de la Manche ou des conneries comme ça. Voilà. Et puis il y a les émetteurs AIS. Un simple émetteur AIS qui en règle générale, c'est plutôt une aide à la navigation. Et ce sont les bouées, les phares, les épaves qui sont donc équipés de ce système-là qui permettent de savoir où sont ces objets quoi. Que le récepteur AIS voit ces objets qui peuvent être des dangers pour la sécurité. Non, 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 mais c'est la bouée qui est un émetteur. Et le récepteur suffit. Ah oui, pour nous, ça suffit. Non, non, parce que tu peux éventuellement mettre un émetteur-récepteur, comme ça, éventuellement, ta famille peut savoir exactement où tu te trouves, hein. Oui, exactement. Ah oui, mais à mon avis, le porte-container, il va pas dévier sa route, hein. Ouais, c'est pas, ça dépend, hein. Là, alors ça, si vous allez sur cette page-là, alors j'hésite à y aller, mais ici, là, quand vous arrivez sur cette page ici, là, vous avez une carte mondiale. Et après, vous zoomez sur la zone qui vous intéresse. Et après, donc là, vous avez tous les bateaux. Et donc, eh ben, Marine, on va essayer d'aller dessus, hein. On va essayer d'y aller. On va regarder. Ah oui, c'est au bon vouloir, hein. Ça met. Et puis ça dé. Ouais, bah là, ça. Ah bah si, ça vient. Moi, j'ai pas une connexion comme enfin, je fais en même temps là. J'envoie sur le site internet, ça met un temps fou. Ouais. Ah ben voilà, ça y est. Ça met du temps, hein. Allez, viens là. Donc là, je sais pas, je vais dans une zone intelligente. Ici, par exemple. Voilà. Ah non, mais. Ouais, enfin bon, ça rame un peu trop là. Mais bon, je fais plusieurs choses. Mais sur, voilà. Mais ça marche très bien ce truc-là. Je vais couper le truc. Ah, bon, en fait, c'est tous les bateaux. Ah, ça, c'est les zones. C'est les numéros de carte. C'est relié à Google Maps. C'est un truc. Et vous voyez aussi éventuellement les bateaux sur les fleuves, ceux qui sont équipés d'un AIS. Là, par exemple, ici, là, on les, ici, là, on voit des bateaux à Paris. Bon, allez, on avance là parce que sinon on va jamais s'en sortir là. Donc là vous avez des bateaux là, donc un rouge, voilà, c'est un navire citerne. Donc les tankers, voilà, ils sont rouges à éviter parce que ceux-là, quand ils tracent, ils bougent pas. Voilà. Et puis ici, si vous allez à Paris, là vous allez voir les bateaux mouches. Et vous savez dans quelle direction ils vont. Voilà, donc alors évidemment là je suis quand même, j'ai pas descendu le zoom, mais plus on descend le zoom, plus on a une nuée de bateaux, quoi. Et avec votre récepteur AIS, vous n'avez pas besoin de connexion Internet, en fait, vous voyez, avec une carte de ce type-là, quels sont les navires qui sont autour de vous. Puisque c'est un récepteur, et donc tout ce qu'il entend sur ce canal AIS en VHF. Eh ben, vous le recevez, donc vous voyez quels sont les navires qui sont autour de vous, et surtout, ce qui est important, c'est leur vitesse et leur direction. Ça, c'est important, ça. Voilà, si on a le temps de traverser ou pas. S'ils vous foncent dessus ou pas. Faut avoir un récepteur AIS. C'est un autre boîtier. Ah bah, ouais, non, mais les gars... Attends, ouais. Quand on fait du bateau, on est riche, hein. Alors, on va finir rapide. Ouais. On voit tout cet équipement. Ouais. Aïe, non, CIU. Ouais. Voilà, et ça marche, c'est nettement plus efficace. Donc maintenant, nous en arrivons aux radiobalises. Donc ça, ce sont des systèmes qui sont évidemment, qui font partie du SMDSM, mais pas que. C'est-à-dire qu'on va retrouver ce genre de balises sur les aviations, mais aussi voilà, sur d'autres systèmes, hein. Donc voilà. Il le fait exprès. Donc les RLS, alors donc c'est les radio locator, je sais plus quoi, système, c'est possible. EPIRB en anglais, Emergency Position Indication Radio Beacon. Donc les balises relais, enfin les balises radio indiquant la position de détresse. Enfin de... Voilà. Donc on lit tout à l'envers. C'est géré par le système satellitaire Kospas-Sarsat. Donc c'est le petit bidule là qui envoie la trame 406 mégas sur le au satellite et qui donc fonctionne comme c'est du Kospas-Sarsat. Donc ce sont des satellites à orbite polaire. Donc en fait, on peut, ça marche partout dans le monde, y compris, alors les îles Marsat ne marchent que finalement que dans ce qu'on appelle la zone 3, A3, puisque on n'a pas les pôles. Quand on est au-dessus de l'équateur, on ne voit pas ce qui se passe au-dessus des pôles. Alors que dans le système Kospas-Sarsat, les satellites y tournent autour de la Terre via les pôles, et dans ce cas-là, la Terre entière est balayée. Donc, encore une fois, il faut enregistrer et coder, puisqu'à l'intérieur, on rentre le code MMSI. Donc, puisque ça, ce genre de système, on le monte sur un bateau. Et il y a un système, il y a une goupille là. En fait, on retire la goupille pour lancer pour lancer l'alerte, quoi. Donc c'est un professionnel qui rentre le code. C'est le MMSI du navire. Évidemment, c'est lié à un navire. Pas question de démonter ce truc-là pour l'installer sur un autre bateau, pour faire des économies. Donc c'est radio, bah oui, radio balise de localisation de sinistre. RLS, je l'avais marqué. Tout RLS doit faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la NFR. Donc c'est dans votre licence que vous allez avoir en plus une balise. Hein? Et donc si vous rajoutez une balise sur votre bateau, bah, il faut mettre à jour votre licence. Puisque, encore une fois, c'est codé avec le MMSI. Et donc comme le MMSI, après, enfin, la NFR donne ses coordonnées au CROSS. Quand le CROSS voit que la balise a été activée, eh ben il sait que c'est votre bateau qui est en danger, qui a un problème. Oui? Ah, c'est pareil. Donc là, c'est le petit schéma qu'on vous a montré tout à l'heure, là, sur ces fonctionnements des RLS. Donc les RLS transmettent via satellite une alerte de détresse à destination d'une station au sol qu'on appelle LUT, Local User Terminal, reliée à des centres de contrôle, donc les MCC, qui valident les données d'alerte et les donnent au SPOC. Alors le SPOC, c'est le point d'entrée finalement, c'est un CROSS spécialisé. C'est le CROSS Greenay en l'occurrence, qui reçoit tous les appels. C'est celui qui a les oreilles pointues, Spock. Et donc c'est ce CROSS Greenay qui reçoit tous les appels, enfin toutes les balises, les signaux des balises de détresse. Auparavant, ça passe par le FMCC de Toulouse, qui reconcentre en fait tous les appels concernant des appels de détresse en provenance de France, enfin de matériel français. Donc autant aviation que des personnels que maritimes. Et c'est après à Toulouse où ils font le tri. Et ils envoient tout ce qui est maritime à Gris-Nez. Et au Cap Gris-Nez, après, bah, ils se débrouillent pour en savoir un peu plus. Donc deux types de balises sont utilisées, les balises de survie qui sont portables avec mise en marche manuelle, donc c'est l'espèce de goupille là, qui sont installées dans le poste de navigation et qui peuvent être portées par une personne à bord d'une embarcation ou d'un radeau. Voilà. Et d'autre part, il y a les balises de pont qui sont logées dans un conteneur muni d'un largueur hydrostatique, et qui sont mis en marche manuellement ou automatiquement. Quand le bateau coule, ça se met en marche automatiquement. Et donc, qui sont sur un support solidaire du pont, mais peuvent se dégager librement, parce qu'évidemment, si le bateau coule, il ne faut pas que la balise, elle tombe avec le bateau. il vaut mieux qu'elle flotte. Sinon, le signal, il est un peu perdu. Et voilà, par principe, elle doit flotter. Les RLS, elles fonctionnent donc sur 406.0.25 et sur 121.5. Alors ça, c'était pour essentiellement, c'était pour les balises de aéronautique 121.5. Et donc 406 uniquement sur les navires de plaisance. Ah, bon, il doit y en avoir, les avions aussi, ouais. Les 406 mégas, les avions. Ouais, elles sont toutes 406. Et les, ouais, sur les. C'est pour les repérer à l'arrivée, ça. Le 121.5. 406, c'est pour envoyer au satellite. Et 121.5, c'est pour les repérer sur zone. Alors, donc le 406 mégas, ça permet d'identifier et de localiser les balises. Et donc le 121 mégas, c'est aussi c'est pour les repérer en phase finale. Alors, elles sont de couleur jaune ou orange, c'est voilà, comme celle-là, pour faciliter le repérage visuel. Elles sont étanches, jusqu'à une profondeur de 10 mètres. Celle-là, je sais pas si... Pas très longtemps. Elles doivent permettre... Alors, important, elles doivent permettre de fonctionner pendant 48 heures. Il y a question là-dessus. Combien de temps peut fonctionner une balise RLS? Enfin, au moins 48 heures. Éjectées, peuvent être éjectées automatiquement. Et la précision de la localisation, c'est d'ordre de 1 à 2000. Ouais. Ben oui, parce qu'il n'y a pas de GPS. C'est ça le problème. Ben oui, d'où l'intérêt d'avoir un petit émetteur 121.5 pour l'approche finale. Parce que du coup... Voilà. Ouais. Alors maintenant, il y en a certaines qui l'ont, mais c'est pas obligatoire. Elle envoie la trame avec la position, mais ce n'est pas obligatoire. Eh ben le GPS, elle... Mais sans GPS. T'as pas le temps de faire le point. Voilà. Dans le local de maintenance du mec. Bon, alors, essai maintenance. Il y a une fonction autotest incorporée, sauvée, et une visualisation du fonctionnement, donc c'est une sorte de clignotement lumineux quand bon, pour voir si c'est si ça fonctionne toujours, en clair si la batterie aussi est bien pleine. Ah bah non. Non, bah ça a une faible puissance. Donc, il y a quand même à vérifier la date d'expiration de la batterie. Voilà, il y a un carnet d'entretien. Voilà. Et la durée de conservation de la batterie est de 5 ans en général. J'ai souligné parce que... Question. Alors, il existe des utilitaires pour décoder des trams. Donc ça, c'est pour décoder en réception uniquement. Et donc on a ça, ça marche à partir d'un PC ou d'un téléphone, et donc on a ça ici sur un site. C'est un petit utilitaire qui fonctionne pas si mal que ça apparemment. Bon, évidemment faut avoir le récepteur, mais on branche ça et ça se débrouille tout seul. À travers la carte son et tout. Les balises personnelles, PLB. Donc, en fait, c'est une toute petite balise. Alors là, on a, voilà, c'est des toutes petites balises qui sont prévues pour être portées sur soi. Donc, il existe différents types, y compris des types maritimes, parce qu'il n'y a pas que des balises, encore une fois, maritimes. Au ski, voilà, par exemple. Voilà. Les trucs d'avalanche, c'est pareil. C'est un truc comme ça. Encore une fois, il n'y a que les types maritimes où on peut coder le MMSI dedans, donc elles font partie du SMDSM, mais il y a d'autres matériels où vous n'avez pas de code MMSI à mettre. Et donc elles ne font pas partie du SMDSM. Les PLB maritimes, on parle bien des maritimes, pas des autres. Elles sont étanches, elles peuvent flotter et elles peuvent être couplées à un GPS. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, un GPS c'est tout petit maintenant, donc on peut très bien le faire entrer là-dedans. Évidemment ça coûte un peu plus cher, mais voilà. Il y a le marquage CE avec approbation des normes COSPAS-SARSAT. Donc là c'est le CE avec le point d'exclamation. Donc elles fonctionnent sur les mêmes fréquences, 406 MHz, 121.5, sauf qu'elles sont beaucoup plus petites. Et pour être opérationnelle, l'antenne doit être déployée verticalement au-dessus de l'eau. Donc il y a une espèce de ruban là, comme on voit là, comme celle-là, mais si on tire pas sur le ruban, évidemment, l'antenne, elle émet beaucoup moins loin. Ouais. Ça, c'est 0,7. Sur 406 mégas, continue.
Lorsque la balise recherche les satellites GPS, elle a trouvé, elle envoie sa trappe, tout va bien pour un code de 128. Elle ne reçoit pas les satellites. Elle n'a pas de position, elle continue à chercher et à envoyer, elle coupe le 121.5 pendant 5 minutes. Au bout de 5 minutes, elle retente la communication avec les satellites, elle ne reçoit pas, elle c'est-à-dire que si elle n'est pas bien déployée, si elle n'est pas dans la bonne position,
ça marche pas.
Le 406 en trouvera difficilement parce que sans antenne, tu ne vises pas loin et il n'y a plus de 128. Ok, vous avez vu le problème, d'où l'importance du coup d'avoir rajouté l'antenne déployée.
Sinon, ça marche pas.
Sinon, ça marche nettement moins.
On on n'essaiera pas. Émetteur AIS de recherche et de sauvetage. Donc ça, c'est avec le système AIS. Donc ça, c'est vraiment encore plus petit. Ça tient dans la main. Et on voit l'antenne, elle est là. On voit l'antenne qui est là, et en fait, c'est pour quand vous êtes en mer, en fait, vous lâchez ça, et ça envoie des trames AIS. Comme ça, tous les navires autour de vous, alors des trames spécifiques, évidemment, c'est des trames spécifiques, évidemment, pour dire, attention, c'est un homme à la mer. Ah ben, tu l'as dans la poche. Tu l'as sur toi. Ou sur ta combinaison, ou sur ton gilet de sauvetage. Voilà. Donc, tu l'as à proximité. Et si bien que ça envoie des signaux AIS, que tous les navires à proximité reçoivent. Voilà. Donc, une fois déclenché, l'émetteur émet pendant 96 heures. Question à l'examen, c'est pour ça que c'est souligné. Bah, tu tires dessus, t'as une goupille. Il y a un GPS intégré. Donc, vraiment, c'est un truc... Voilà. Donc... Et donc... Ah oui, oui, c'est-à-dire que... Oui, exactement. Ah oui, exactement. Exactement, ouais. Ouais, ouais. Alors, je sais pas si on peut... Enfin, je sais pas si on récupère ces signaux-là, parce qu'après, il y a des filtres selon les bateaux et tout ça. Mais pourquoi pas, enfin, intellectuellement, ça doit être possible. Je sais pas l'intérêt non plus, mais enfin bon. J'aimerais bien finir. Émetteur, donc ne pas confondre cet émetteur AIS SART. Cet émetteur AIS SART, ils appellent ça aussi émetteur SART dans les questions d'examen. D'accord ? C'est un, et il ne faut pas le confondre avec un répondeur SART qui est autre chose, qu'on va voir tout de suite. Le répondeur SART, c'est ça. Donc ça, c'est un répondeur radar. C'est-à-dire que quand on a des radars qui balayent la zone, ce système-là voit qu'il y a un radar qui balaye et il envoie des trames sur le radar. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un répondeur radar. C'est-à-dire que ça émet finalement des trames, et sur votre radar, ça va donner il va y avoir 12 petits traits ici qui sont caractéristiques finalement de ce répondeur radar qui montre que, attention, il y a quelqu'un qui a lancé une alerte. Ah, parce que sinon, quand vous avez juste un bateau, bah, vous avez un point. Vous n'avez pas toute une série de points comme ça. Donc là, il y a 12 points. Évidemment, ça ne marche ça que lorsque le radar est en vue. Vous savez que la Terre est un peu courbe quand même. Donc en fait, c'est limité à la courbure de la Terre. Mais en fait, on peut vous voir jusqu'à 5 à 10 000 en fonction de la hauteur du radar sur le bateau qui a le radar. Et si vous avez votre répondeur qui n'est pas noyé. S'il est un tout petit peu en hauteur, ça marche. Encore une fois, c'est un dispositif qui est censé être en hauteur. Et c'est beaucoup plus gros quand même que les autres systèmes là. Ici, il y a la goupille de déclenchement qui est ici là. Voilà. Donc ça fait 12 traits lumineux. Alors les questions, c'est 12 traits lumineux et 5 à 10 000. Non, mais pour le reconnaître, parce que sinon, si tu fais un seul trait, c'est un bateau. C'est un bateau normal. Donc, 12 traits lumineux, c'est pour dire, ça, c'est spécifique, c'est une détresse. C'est pour reconnaître des autres éco-radars, finalement. Les questions à l'examen, rapidement. Lors d'un appel d'une station de navire vers une autre station de navire, les trois premiers chiffres du MMSI permettent d'identifier le nom du navire, la position du navire, la nationalité du navire, l'appel, la nature de l'appel. Donc on a vu que c'était la nationalité, les trois premiers chiffres du MMSI dans un bateau. C'est le MID, le fameux MID. Lors d'une transmission par ASN, le MMSI est transmis automatiquement, uniquement si je le souhaite, oralement sur la voie 16. C'est automatiquement, c'est le principe de l'ASN. Je veux contacter un autre navire en ASN avec demande de dégagement sur la voie 6. J'utilise l'AIS1, la voie 70 par un appel à tous, la voie 70 par un appel de routine destiné à un autre navire. Ça, c'est la bonne réponse. Mais c'était marqué en plus. Ah, il faut que je corrige là. Les réponses, elles sont à la fin. Non.
Ouais, il y a les questions, les réponses dans l'ordre.
Dans l'ordre. Pour appeler une station côtière, le MMSI correct à saisir est. Évidemment, on commence par un double zéro. Donc c'est 00227-5100. Vous allez quitter votre navire et vous voulez indiquer qu'il est en feu. Vous appuyez sur Distress Individual, All Ships ou Cancel. Distress, c'est mieux. je sais pas. Non, tu peux pas dire, une fois que tu as dit Individual, tu peux pas donner pourquoi tu appelles. Quelle est la cause de l'appel. Individual, tu ne peux finalement contacter qu'un navire. Ah, mais pas en individuel. Ça ne peut être qu'en distress. Si tu veux, après, tu as tout un... des sous-chapitres, qui permettent pas de sélectionner voie d'eau une fois que tu as sélectionné individuel. Vous avez un blessé à bord qui nécessite des soins. Vous appuyez sur distress. Vous appuyez sur le bouton rouge distress. Vous agissez sur la touche distress. Vous agissez sur la touche all ships. Vous appuyez sur la touche cancel. Vous appuyez sur la touche all ships, je crois. Appuyez sur la touche le bouton rouge, c'est le truc indéterminé. Alors que là, on agit sur la touche distress. Donc derrière, on va définir quel est le type d'appel. Pourquoi j'appelle? Ah oui. C'est un pan-pan. Donc on le fait à All Ships. Ou All Station. Vous souhaitez signaler au cross un conteneur à la dérive. Vous sélectionnez Distress, Individual, All Ships. Voilà, All Ships. Non, cross, ça c'est individuel. Vous signalez au cross. Donc on n'appelle pas tout le monde, on appelle que le cross. Ah, c'est tordu ça. Ouais. Attends, je sais même pas quelle est la réponse qui a été proposée ici. Attends. Individual, c'est individual. Ouais. Bon. Voilà. Bon, pour appeler une station de navire, le code MMSI correct à saisir est. Donc là, c'est un navire. Donc c'est 227, puisque tout ça, ce ne sont pas des navires. Voilà, c'est ni 0, ni 1, ni 9. Le récepteur NavTex permet de recevoir des cartes météo, des informations portuaires, des renseignements sur la sécurité maritime. Il n'y a pas que des cartes météo. Donc c'est des renseignements sur la sécurité maritime. Oui, mais c'est pas que. Un émetteur SART. Un émetteur SART émet des signaux dans la bande VHF, en ASN, en Inmarsat, depuis la bande radar comprise entre 9200 et 9500. Eh ben, c'est pas un répondeur SART. Ça, c'est répondeur SART, la bande radar. Voilà. Émetteur SART, il émet en AIS. Donc, pas en ASN, mais ici, dans la bande VHF. Il n'est pas en ASN, il est en AIS. Même si c'est du numérique, mais c'est pas l'ASN. Ah bah parce que l'émetteur SART, c'était mon petit truc là, qu'on voyait, c'est le radar là, c'est ça. C'est ça. Non, ça c'est le répondeur. Voilà. Ça c'est l'émetteur SART. Non, c'est pour ça que je vous dis que c'est assez tordu. Bon, bah là, toutes les questions qu'il y avait. Voilà toutes les questions qu'il y avait. Donc la semaine prochaine, bah, on va voir les questions d'examen. On a récupéré 120 questions par là d'examen. Donc on espère que... Ok. Ouais, et puis donc après... Et après ça saute, c'est Pâques, c'est le week-end de Pâques. Et après seulement... ça fait le 7 avril... Week-end de Pâques, tout le monde va être barré, donc on fait rien. Et ça reprend, et on reprend le samedi d'après. Donc il y a l'examen blanc. Ouais. Voir si vous avez bien appris le bouquin par cœur.